MM Radio. MM Radio.
Bonjour à tous, je suis Angela Putti, je suis plus qu'à ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission d'œuvre de foi sur MM Radio et la toute dernière de la série Lédio. Et oui, c'est la fin, mais soyez rassurés, nous vous préparons de belles œuvres inspirées pour le printemps. Nous espérons qu'à travers les témoignages des deux premières émissions, vous avez pu trouver un ami, une personne de votre famille, avec qui faire une merveilleuse rencontre avec notre Père Céleste pour les non-croyants et pour les croyants, pour vous aider à rafraîchir votre amour envers Dieu, rendre votre foi active et produire du fruit du bel arbre que vous avez planté il y a un moment. Car marquez-le dans votre cœur, mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques », à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même, dit l'apôtre Jacques au chapitre 2, versets 14 à 17, sur lesquels est basée notre émission « Œuvre de foi ». Alors, pour terminer donc la série « Les duos », après les amis, la fratrie, nous allons mettre en avant le couple. Un duo particulier car un don de Dieu est établi devant Dieu pour deux êtres unis par une alliance sacrée que l'on appelle le mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et devra s'attacher à sa femme et ils devront devenir une seule chair, déclare l'Éternel Dieu dans le premier livre de la Bible, Genèse au chapitre 2 verset 24. Et Jésus, son fils, le confirme dans les livres de Matthieu au chapitre 19 versets 5 et 6 et qu'il a dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair, si bien qu'ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a attelé au même joug, que l'homme ne le sépare pas. Ouvrez grand vos oreilles et prenez des notes ceux qui s'apprêtent à se marier car vous allez avoir droit à une préparation au mariage, tout autant les célibataires qui désirent avoir un avant-goût véritable et non fantasmé de l'union marital. Le couple qui va témoigner pour ce dernier thème, les duos, donc Eric Mercantia et sa magnifique épouse Isabelle Mercantia. Comment allez-vous?
Bien, merci Angela.
Vous avez la pêche.
Ça va Angela, merci.
Vous bien. Êtes prêts à témoigner?
Oui.
Avec la grâce de Dieu.
Amen, je suis impatiente que les auditeurs vous découvrent, votre couple également, ainsi que vos œuvres. Commençons par vous présenter. Eric, tu es conducteur de RER, donc à la RATP. Depuis combien de temps conduis-tu les Parisiens à destination?
Ça fait maintenant 27 ans et demi.
Waouh, quelle expérience.
Ça a commencé en 1991.
Ça te plaît toujours autant?
Ça me plaît toujours autant, ça va.
Et puis tu es également pasteur et nouveau président à l'église Espoir et Vie, une église intime dans laquelle tu sauves des âmes. Depuis combien de temps exerces-tu le métier de pasteur et dans cette église?
Alors dans cette église, ça fait maintenant, c'est la cinquième année. Auparavant, j'étais pasteur dans une autre église, mais dans cette église de Paris, Espoir et Vie, dans le 7e arrondissement, ça fait la cinquième année.
D'accord. Quel est le rôle d'un pasteur qui est un nom spécifique aux églises pentecôtistes, hein?
Oui, Assemblée de Dieu en France. Le rôle d'un pasteur, simplement, c'est, il est un peu multiple, mais il est d'abord de s'occuper de son église, de s'occuper de ses brebis, c'est un rôle de berger, de penser les plaies, d'aider, d'enseigner aussi la parole de Dieu, et de veiller à ce que le troupeau soit en bonne santé autant que faire se peut. Voilà le rôle du pasteur.
Ça. Et puis Espoir et Vie fait partie d'un groupe que l'on appelle Assemblée de Dieu, fondée par Douglas Scott. Quelle est la particularité d'appartenir à un tel groupe pour une église?
La particularité des Assemblées de Dieu, elle est simple, c'est-à-dire que c'est un groupe national aujourd'hui. Et moi, c'est au sein de ce groupe-là, de ce mouvement-là, que Dieu m'a appelé à le servir, il y a maintenant plusieurs dizaines d'années. La particularité, en tous les cas, moi, ce qui me convient bien aujourd'hui, c'est que c'est un mouvement qui colle à la parole de Dieu, qui vit les choses qui sont écrites dans la parole de Dieu, et qui sert vraiment la parole de Dieu sur son cœur, et qui a vraiment cette marque-là, et c'est là, en tous les cas, que Dieu m'a appelé, et j'en suis ravi.
Alors, pourquoi une personne choisirait de fréquenter l'église Espoir et Vie plutôt qu'une autre?
Pourquoi? Bonne question, Angela. Je vais te dire pourquoi, parce qu'on est les meilleurs. Pourquoi ? Eh bien, premièrement, je dirais que je raisonnerais différemment.
Oui.
Je dirais qu'une personne croyante, on va parler
oui.
de quelqu'un qui croit,
bien sûr.
Choisirait l'Église Espoir et Vie, tout d'abord parce que Dieu l'appelle dans cette oui. Église mm-hmm. à venir dans ce lieu, oui. exercer sa foi, mm-hmm. Vivre la vie biblique de communauté fraternelle, etc.
Oui. Oui.
Donc, premièrement, parce que Dieu lui demande.
D'accord.
Deuxièmement, parce que cette personne-là, il retrouvera les éléments qui sont OK avec sa foi,
mm-hmm.
la foi qu'elle veut vivre, mm-hmm. Avec sa vision personnelle aussi.
Ouais.
Et voilà quand même pour moi deux éléments principaux
ouais.
qui font que une personne pourrait et devrait nous
ouais.
rejoindre à l'Église Espoir et Vie.
Ouais.
Après, il y a bien sûr le fait que cela plaise
bien
quand
sûr.
On y est, que ouais. ça corresponde à des choses qu'on a dans le cœur
Tout
et que
fait.
Ce soit la forme de vie
mm-hmm.
que nous ayons souhaité pour la foi.
Ouais. Et puis, bien sûr, avant d'être conseillé par le Seigneur pour visiter, pour fréquenter cette Église, il faut d'abord la visiter.
Il faut la visiter.
Ouais.
Alors nous, comme tu le sais, c'est un lieu atypique.
Tout à fait.
C'est sur un bateau, sur la Seine, en face ouais. de l'Assemblée nationale. Donc il faut déjà que ce ne soit pas rédhibitoire pour quelqu'un, parce
ouais.
que ça peut ne pas correspondre au schéma d'une église
oui,
traditionnelle.
Mm-hmm.
Donc voilà déjà un élément qui fait que ça doit aussi plaire en ce sens-là.
Tout à fait. Isabelle, tu es également conductrice, mais de métro. Depuis combien de temps également ?
Depuis 93.
D'accord, 93.
Voilà.
Ça te plaît toujours autant hein ?
C'est un métier alimentaire,
ouais.
il n'y a pas beaucoup de contraintes,
mm-hmm.
et on a un temps limité de travail par
ouais.
rapport à un autre travail, on a une amplitude que de 6 heures, ce qui nous permet d'avoir du temps.
C'est bien ça.
Oui, c'est bien.
Et tu es également donc, tu es femme de pasteur.
Oui.
On entend beaucoup cette position spécifique dans les églises, mais en quoi consiste le rôle d'une femme de pasteur et particulièrement le tien dans l'église Espoir et Vie ?
Alors, la femme de pasteur, c'est avant tout une sœur, une chrétienne.
Mmh.
Hein. Elle n'a pas toujours les qualifications de son mari, qui lui est pasteur, appelé à
oui.
prêcher.
Mmh.
Donc, elle n'est pas toujours à l'aise avec le micro.
Mmh.
Hein. C'est souvent ce qu'on attend d'elle.
Ah.
On croit qu'elle va être aussi éloquente que le mari.
Ah.
Elle a une position... C'est avant tout une personne au milieu de l'assemblée, au milieu des frères et sœurs, qui
oui.
n'a pas un rôle... en avant,
oui.
hein, elle n'est pas sur le devant de la scène,
mm-hmm.
elle est souvent, selon l'appel qu'elle a reçu aussi,
oui, oui.
Dans mon cas, mm-hmm. en fait, j'ai pas reçu un appel en même temps que mon mari, mais mm-hmm. je l'ai suivi dans l'appel qu'il
D'accord.
a reçu,
okay.
et petit à petit, le Seigneur a développé des talents en moi, des
oui.
dons qui ont fait que j'ai été complémentaire par rapport à l'appel d'Éric.
Oui.
Donc la femme du pasteur, c'est déjà... avant tout une personne engagée qui
oui.
accepte de rentrer dans le ministère qui est quand même une vie d'engagement
tout
et on laisse des choses de côté de
Bien
sa
sûr.
Vie personnelle.
Exact.
Et ensuite, Dieu travaille avec les talents que la personne a reçus. Donc, il n'y a pas un schéma type de
oui.
femme de pasteur.
D'accord, ok.
Hein, c'est oui. aussi selon les talents et les dons qu'elle a reçus. Mais de toute façon, il y a un engagement.
Oui.
Un engagement certain.
Et puis tu es engagée d'une certaine manière à l'église puisque tu es...
Alors, moi je m'occupe de la relation d'aide
oui.
essentiellement.
Oui.
Et puis là, le Seigneur m'a montré une autre voie. Je m'occupe aussi des ados.
Oui.
Voilà. Il y avait un manque et le Seigneur m'a demandé d'aller œuvrer aussi au sein des ados.
Oui.
Donc on a un groupe d'ados assez conséquent.
D'accord.
Les enfants s'y sentent bien.
Oui.
Et voilà, mon rôle, il est un peu partout. Hein.
Oui.
On va aussi bien être appelé à servir les frères et sœurs dans les agapes,
mm-hmm.
hein, faire le café le matin s'il
oui.
y a besoin, passer un coup de balai aussi s'il
oui,
le faut.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est les agapes ?
Les agapes, c'est un partage d'un repas,
oui.
hein, d'un brunch,
mm-hmm.
qu'on peut faire aussi bien le matin
D'accord.
en forme de petit déjeuner
oui.
ou le midi après le culte. On
oui.
se réunit, on mange ensemble.
D'accord.
Voilà.
Ok, super.
C'est un partage.
Ça a l'air intéressant. Parlons de votre relation avec Dieu. Alors oui, avant vous étiez dans la nuit, mais maintenant, en étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Ce que la lumière produit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Cherchez ce qui plaît au Seigneur, nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, versets 8 à 10. Alors je crois que vous avez fait votre rencontre avec Jésus ensemble, c'est ça ? Et
oui.
avez changé de vie ensemble ?
Eh bien, nous sommes convertis le 13 mai 89.
Ah, vous vous souvenez de la date ?
Exactement, c'est une date mémorable. Dans une petite église d'Anières,
mm-hmm.
On était dans une impasse, en
D'accord,
fait.
Oui.
On était déjà mariés, mais
mm-hmm.
dans une impasse. Et on
oui.
a été invités à écouter la parole de Dieu
oui.
à Anières.
Mm-hmm.
Et le pasteur a prêché En fait, on aurait dit qu'il nous parlait.
Ouais.
C'était directement, on était directement ciblés. Mm. C'était, ça a résonné dans notre cœur. Et au même moment, on a accepté Jésus.
D'accord.
En fait, on se souvient vraiment de la prédication, du thème de la prédication.
Ouais. Et c'était. Et comment ça vient quand on accepte Jésus? Comment c'est venu pour vous, par exemple? C'est genre une conviction dans notre...
Physiquement Parce que moi, c'était aussi bien physique.
Ah, ok.
Que, ouais, en fait, j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure.
Ah oui.
Et le pasteur disait, si tu veux que ta vie change, lève ta main, accepte le Seigneur dans ton cœur. Et mon cœur tapait très fort.
Oui, oui.
Et c'était complètement chamboulé dans ma tête. Oui. Et en fait, j'ai levé la main, qui est un geste qui semble symbolique, mais en fait, c'est un geste qui a une grande importance. Bien Au moment sûr. Où on le fait, tout change.
Oui, oui, oui. Pareil, Eric ?
C'est un peu pareil, en fait, pour faire court. Ma vie avant, c'était pas du tout ça, avec Isabelle. Et donc, c'était violence, drogue, alcool, etc., etc. Ouais. Je ne vais pas tout te raconter
Bien
là.
Bien sûr.
Mais en fait, en une fraction de seconde, tu te retrouves dans un endroit où on parle de Jésus-Christ. Mmh. Et tout au long de cette soirée-là, tu pressens que ta vie va changer.
Oui.
C'est-à-dire que la dame qui nous avait dit de venir écouter l'évangile simplement dans cet endroit-là, eh bien, on y est allé avec Isa, et deux gens qui étions habitués à être en boîte de nuit, en discothèque, c'était pas notre univers du tout.
Comment vous êtes retrouvés là, d'ailleurs ?
Eh bien, notre voisine nous avait parlé de Dieu, nous avait dit, écoutez, venez écouter l'évangile, on vit des choses, etc. Et tu remets ça dans son contexte. Voilà, on n'était pas du tout dans cet univers-là, nous y sommes allés.
Ouais.
Et ce soir-là, c'est vrai que le pasteur a parlé sur... On avait l'impression qu'il déroulait notre vie. Tout ce qu'il disait était en rapport avec ce qu'on avait vécu. Et tu sens les choses se faire. Et d'un seul coup, à la fin de cette réunion, il dit, en fait, si vous acceptez ce message, si vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, faites un geste tout bête, levez la main.
Ouais.
Et ce geste tout bête devient dur à faire parce que ton bras, il pèse une tonne.
Ouais.
Et tu ne peux pas lever la main.
C'est ça.
Et on a accepté en même temps, on a levé la main. Et je peux dire, en tous les cas, en ce qui me concerne, qu'en une fraction de seconde, ma vie a changé.
Ouais.
Je savais ce qui était bien, ce qui était mal, ce qu'il fallait faire, ne plus faire. Et je savais que j'étais plus le même. Et qu'en sortant de cet endroit, ma vie serait transformée.
Wow,
voilà ma
génial.
Rencontre.
Ouais, on espère que d'autres pourront vivre ça aussi.
Ah, mais
oui. C'est clair. Comment évolue cette relation dans la lumière, comme on dit, de plus en plus loin des ténèbres ?
Ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Ouais.
Hein, au moment où on prend conscience que notre vie doit changer, Dieu nous aide bien évidemment,
bien sûr, hein,
mais ça ne se fait pas sans lutte
vrai.
Et sans volonté.
Oui.
Il faut y mettre notre part.
Ouais.
Alors au début, c'est vrai qu'on est complètement porté par le Seigneur, on est comme des bébés, on est choyés, mais ce n'est pas sans combat et sans lutte. Parce que quand on vient d'un univers comme Eric de drogue et de violence, moi, un passé aussi, peut-être pas aussi ténébreux, mais néanmoins, un passé d'une fille de qui allait en boîte de nuit, effectivement, qui n'avait pas une vie toujours très en règle, hein, par rapport à ce que demande le Seigneur,
Tout
justement.
À fait.
C'est difficile au début, mais on sait qu'on doit changer, le Seigneur nous aide.
Oui.
Alors, ça se fait par étapes.
Oui.
C'est pas... En ce qui concerne Eric, ça a été radical. Le mensonge a été balayé immédiatement. Moi, on parlait beaucoup, on était assez grossiers dans notre façon de nous exprimer. C'était radical. Il y a des choses vraiment radicales. Le vol, ça a été radical aussi. Puis ensuite, il y a nos traits de caractère qui doivent être transformés, façonnés. Donc ça, ça se fait de façon... Ça évolue selon aussi notre consécration, notre temps passé devant Dieu, notre...
Il y a un peu on fait un pas, et puis le Seigneur voit qu'on a envie de changer, il nous révèle des choses qu'on doit changer en nous-mêmes. Et puis au fur et à mesure qu'on fait... Enfin, moi, je suis très organisée dans mon genre, mais je faisais des listes. Je disais, OK, cette semaine, on s'attaque à ça. Et du coup, je prenais vraiment les combats à cœur. Et au fur et à mesure qu'on s'investit, parce que c'est pas genre, Dieu va tout faire pour nous.
Non.
Au fur et à mesure qu'on a envie de changer, qu'on prend en considération
Absolument.
Notre caractère, on se dit, OK, Seigneur, j'ai envie de te faire plaisir, j'ai envie aussi de changer, parce que ça me plaît pas du tout ce qu'on vit ou ce qu'on vit nous plaît pas. Et au fur et à mesure, on dit, OK, il y a ça, par-ci, par-ci, par-là. Et on fait,
c'est un cheminement.
Oui, voilà.
Et ça se fait avec la communion.
Exactement.
Une communion avec le Seigneur, le Saint-Esprit nous montre ce qu'il faut changer.
Tout à fait.
Mais ça ne se fait pas effectivement du jour au lendemain.
Exactement.
Et on est tout le temps en changement, en évolution, en perfectionnement en
Exactement, au fur et à mesure. C'est une aventure. Et Le roi Salomon a écrit dans Ecclésiaste au chapitre 4, versets 9 à 10, « Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son travail, et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. » Un conseil qui vaut pour pas mal de relations, mais aussi pour le couple. Est-ce plus facile la foi à deux, de par votre expérience ?
Nous, on l'a vécu à deux.
Oui.
On ne l'a jamais vécu seul.
Ah, bah oui, donc... c'est vrai. Mm. Mais vous avez vu des gens qui ont vécu la foi seule.
Je pense que quand on a une vie d'église, on n'est pas seul pour vivre sa foi déjà. Ce n'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est seul, de toute façon. On a toujours un frère ou une sœur à nos côtés.
Oui.
C'est d'où l'importance d'être au sein d'une église, d'une communion fraternelle.
Tout à fait.
Et on ne sera pas seul. Il ne faut pas considérer quelqu'un de célibataire et seul.
Oui, c'est ça. Oui.
Maintenant, nous, on a vécu la foi à deux.
Mm-hmm. Oui.
On s'est convertis le même jour.
Oui.
Alors, il y a des... Bien sûr, c'est formidable de rencontrer le Seigneur en même temps.
Ouais.
Mais le souci, quand on se convertit en même temps, c'est qu'on n'avance pas toujours de la même manière.
Ah bah oui, ouais, le même rythme. Mm.
Donc voilà, il faut avoir... On n'a pas toujours la patience nécessaire pour supporter que l'autre ne change pas tout de suite comme on le voudrait.
Oui, oui.
On regarde plutôt les changements de l'autre plutôt que se regarder soi-même. Ou il évolue trop vite, ou moi pas
c'est
assez
clair,
vite.
Ouais.
Mais c'est quand même une grande richesse de rencontrer le Seigneur et de marcher effectivement ensemble.
À deux, exactement. Mm. Beaucoup de chrétiens utilisent les paroles de Paul à son fils spirituel Timothée dans le livre 1 Timothée chapitre 3, verset 2. Il faut donc que le surveillant soit irréprochable, mari d'une seule femme, modéré dans ses habitudes, saint d'esprit, ordonné, hospitalier, capable d'enseigner. Pour dire qu'un pasteur doit absolument être marié pour exercer dans une église. Est-ce que le verset signifie vraiment cela ?
Je dirais que le verset signifie plusieurs choses. Pour faire simple, il signifie qu'il ne faut pas que tu aies une autre attitude que celle que tu prêches. Autrement dit, faut être quand même exemplaire enseigner. Enfin, exemplaire, faut essayer d'être en règle quand même. Parce que, tu peux pas avoir un discours qui ne correspond pas à ta vie.
C'est clair.
Voilà. Maintenant, pour la deuxième partie de ta question, est-ce qu'il faut absolument être marié pour être pasteur ? Je dirais que tout de suite, pas forcément, mais qu'à un moment donné, tu vas peut-être manquer de compétences si tu n'es pas marié, si tu n'as pas élevé des enfants, si tu n'as pas une vie de famille, pour conseiller au sein d'une église des gens qui seront dans des soucis de couple, dans des soucis d'éducation pour les enfants, dans des soucis de vie de famille. Tu ne seras pas disqualifié, mais tu ne seras pas énormément qualifié pour cela.
Oui.
Ça, c'est la deuxième partie. Mais la première partie du verset dit surtout qu'il faut... Que tu sois vraiment celui que tu dis être et que tu fasses vraiment ce que tu dis qu'il faille faire. Quoi.
Oui, bien sûr, parce que tu représentes le Seigneur
en
plus.
C'est ça.
La charge.
Tu ne dois pas avoir un double discours, une double vie.
Et puis, est-ce que ce n'est pas aussi pour que justement le pasteur qui a déjà son épouse, mais celui qui n'en a pas, puisse rester concentré, quoi ? Parce que si forcément un pasteur n'a pas d'épouse, il va commencer à il va avoir des envies qui vont naître dans son cœur et son ministère ne va pas être concentré du coup, non ?
Bon,
alors... Il y a le don de célibat.
Oui, alors j'allais y venir,
Ouais.
Bon, c'est mon interprétation, mais je pense qu'elle est juste quand même de la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que le mariage c'est bon, le mariage c'est de Dieu, mais que certaines personnes ont reçu de Dieu ce qu'il appelle le don de célibat. Et le don de célibat serait de pouvoir passer sa vie seule sur terre sans se marier. Je pense aussi que si tel est le cas, Dieu te donne la capacité de vivre ce qu'il te demande de vivre. Et que si tel n'est pas le cas, il vaut mieux se marier plutôt que de brûler, nous dit l'apôtre Paul.
C'est ça, exactement.
Parce que si tu veux absolument rester célibataire,
tout
mais que ce n'est pas ce que Dieu demande, eh bien tu risques de te comporter de façon corrompue par rapport à la parole de Dieu. Et c'est ce que Paul appelle brûler. Donc il faut considérer que le mariage est de Dieu, qu'il faut se marier, que Dieu pourvoit aussi.
Aussi au mariage.
Voilà, sans problème.
Il est temps de parler du couple. Alors, dans le livre Genèse, chapitre 2, verset 18, il est écrit « L'Éternel, Dieu, dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Pourquoi le couple et pourquoi le mariage est si précieux ?
Écoute, demande à Dieu, Angela.
Oui ? Seigneur, si tu m'entends.
Pourquoi c'est précieux ? Notre exemple, en tous les cas, nous, on a toujours tout fait ensemble. On s'est mariés, on s'est mariés. On est rentrés dans la même société le même jour, on s'est baptisés le même jour, on fait tout ensemble. On est fusionnels. C'est pas forcément le cas de tout le monde.
Mais c'est une grâce.
C'est vraiment une grâce. je parle pour moi, j'ai besoin de ma femme parce que elle est utile, elle est précieuse, je l'aime, elle me donne des conseils, c'est important.
Oui.
Et je pense que c'est vice-versa, c'est vrai de votre côté. Maintenant, tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit, tout le monde n'est pas fusionnel, mais voilà, Dieu veut qu'on soit marié, que la femme soit une aide de l'homme
c'est
et que cette relation soit comme telle. Alors, il faut obéir à Dieu, simplement, et vivre cela.
D'accord.
Et donc, c'est merveilleux.
Oui, c'est la raison du couple.
C'est la raison du couple.
Ok. Pourquoi le mariage est si mal compris dans notre société et mal vécu comme quelque chose d'égoïste, presque une transaction ?
Le mariage
Oui, c'est très business. Pour certains, ça veut dire que certains vont se marier en se disant « Oh, j'ai envie de n'être plus seule, j'ai l'horloge biologique qui tourne, ou bien c'est bien pour les impôts aussi. »
Ou alors on va faire la fête.
Voilà, exactement.
C'est vrai que ça a perdu un peu de sa signification première, le mariage.
Oui.
D'ailleurs, le mariage, il est comparé entre Jésus et l'Église. Hein, c'est vraiment quelque chose de très précieux, le mariage aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu quelque chose d'assez réducteur. Hein.
Ouais.
À la fête, on officialise parce qu'il y a des enfants.
Oui.
Bien souvent, les gens se marient, ils n'ont même plus la notion que c'est Dieu qui a établi le mariage.
Tout à fait, exactement.
Et
c'est
on prend le maire pour officialiser la cérémonie et ça suffit.
Ou bien on fait des mariages spectacles.
Voilà.
Ouais.
Donc, je ne sais pas si aujourd'hui ça a la valeur. D'ailleurs, ça n'a plus aucune valeur puisqu'on peut défaire un mariage aussi facilement qu'on l'a fait.
Tout à fait, exact. Puis à Las Vegas aussi.
Voilà, donc aujourd'hui le mariage, qu'est-ce qu'il veut dire dans notre société? Je pense qu'il ne veut plus rien dire en réalité.
Ouais, exactement. Ouais.
Il ne veut plus rien dire.
Ouais.
Et le mariage, selon Dieu, c'est quelque chose de c'est quelque chose de magnifique en fait. C'est le mariage, c'est quelque chose qui est fondé, qui doit être fondé dans la parole de Dieu.
Ouais, ouais.
Sous le regard de Dieu.
Ouais.
C'est une institution divine, le mariage. Aujourd'hui, on ne retrouve pas ça dans.
Non. Ouais.
Dans notre monde contemporain, ça n'a plus rien à voir.
C'est plus une étape de vie et on se dit, bon, il faudrait peut-être que je me marie.
Et puis on peut renouveler 100 fois nos voeux
avec
une personne différente, c'est plus gênant.
Oui, exactement.
Que, selon la parole de Dieu, on se marie une fois, pour la vie.
Donc plus on s'éloigne de la parole, de la connaissance de la parole, de ce que Dieu a prévu pour nous, pour le mariage, comme beaucoup d'autres choses, moins le mariage a toute sa valeur, en fait.
C'est ça.
Le mariage vient de Dieu.
Oui.
C'est Dieu qui a institué le mariage. Donc forcément, on ne peut comprendre le mariage au sens de Dieu qu'en connaissant Dieu aussi.
C'est ça.
Et c'est comme si, je prends un exemple qui vaut ce qui vaut, c'est comme si tu achetais quelque chose et que tu avais tu n'avais pas le manuel pour le faire vivre ou travailler.
Oui.
Le manuel du mariage, il faut le demander à Dieu, parce que c'est un engagement, c'est la moitié de toi-même, tu quittes, tu l'as dit en début d'émission, tu quittes ton père, tu quittes ta mère, tu t'engages, tu deviens une seule chair. Aujourd'hui, l'engagement fait peur.
Ouais.
Prendre une femme pour la vie, quelle horreur, si elle ne me plaît plus dans 2-3 ans, il faut que je change.
C'est ça, ouais.
Voilà, ça correspond à notre époque, à tout cela. Et donc, ça ne reprend du sens que quand on redonne à Dieu la capacité de nous éduquer sur le mariage, de nous dire, voilà, c'est moi Dieu, j'ai fait le mode d'emploi, je vous le donne, et c'est comme ça que ça se passe. Si on ne rentre pas là, c'est compliqué.
C'est comme dans tout ce que Dieu a prévu pour nous, en fait.
Oui.
Moins on collabore avec lui, moins on reçoit,
ça
dit, on a le manuel.
Voilà.
Et au lieu de voguer tout seul et à faire n'importe quoi, là, on sait, il nous guide, en fait, de cette manière. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Et puis, mari et femme?
Alors, on s'est connus en 83 et on s'est mariés en 86.
D'accord.
Entre 83 et 85, on s'est connus quelques mois en 83. On s'est perdu de vue pendant 2 ans.
Oui.
Et un jour, Eric, il était en cure de désintoxication suite à la drogue. Et il était parti en Algérie pour se sevrer, en fait, couper un peu du milieu.
Oui.
Et il est revenu d'Algérie, il est venu me voir dans le magasin dans lequel je travaillais à l'époque.
Ah ouais.
Et notre histoire a repris. Et voilà, un jour il m'a dit « j'aimerais vivre avec toi ». Je lui ai dit non, j'ai dit « moi c'est le mariage ou rien ». Et il a dit « ok, on se marie ».
C'est ça, il faut qu'une femme aussi ait ses convictions quoi.
Voilà, alors je n'étais pas chrétienne.
Oui, oui, bien sûr,
mais je voulais me marier.
Ouais,
c'était
ouais.
hors de question de vivre comme ça. Je me disais, si même, il doit se marier,
exactement.
Et on fera qu'un, et sans connaissance de Dieu.
Ouais.
Mais pour moi, c'était... Une femme, elle a besoin d'être sécurisée,
Tout
donc je
fait.
Pense que j'avais besoin d'être sécurisée par le mariage. Mais c'était pas du tout un mariage. Enfin, personne n'aurait parié un euro sur notre mariage.
Ouais,
c'était
ouais.
vraiment un... Il sortait de la drogue, il était au chômage, on ne savait pas d'où il arrivait, on se connaissait depuis pas longtemps.
Ouais, exact. Et puis il revient tout d'un coup.
Voilà.
Et, le gendre idéal.
Et c'est pourtant, ça. Mes parents l'ont accueilli comme un prince. Et puis voilà.
Vous n'avez pas fait un spectacle quand même, non?
Non, on s'est mariés à 25 dans le jardin de mes parents, un goûter d'enfant.
Ah,
voilà.
Génial.
Ouais. Et puis c'était un très bon mariage, joyeux.
Ouais.
Et par contre, effectivement, sans la grâce de Dieu, on ne serait plus ensemble aujourd'hui.
Ouais, forcément.
Voilà, ça c'est certain.
Comment vous êtes rencontrés?
En boîte de nuit.
Ah, bah voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller en boîte de nuit, ceux qui nous écoutent.
Ah non, on ne conseille surtout pas ça.
Je crois qu'elle est fermée d'ailleurs.
C'est ça. On ne dira pas le nom.
Non,
elle
n'existe
plus, elle n'existe plus.
En boîte de nuit, voilà.
C'est... Ok.
Tout était conduit par Dieu, ceci dit. Hein.
Ouais.
Je pense que même avant de connaître le Seigneur nous connaît déjà.
Oui.
Et il conduit les choses. La preuve, on est mariés depuis 86.
Ouais, exact.
Et puis c'est une superbe histoire d'amour, on pourrait faire un film. Hein.
Oui, c'est ça, exactement. On va dire quelqu'un d'écrire le scénario. Comment avez-vous su chacun que vous étiez la personne que Dieu a destinée pour l'autre?
On ne le savait pas à l'époque.
Oui, on ne le savait pas, comme te l'a dit Isabelle. Je suis en Algérie, je sors de toxico, je prends l'avion, j'atterris, je vais à son magasin. J'étais guidé, téléguidé, mais sans m'en rendre compte, si tu veux, parce que je crois à la prédestination aussi.
Bien
la
sûr.
Bible nous dit que Dieu nous avait connus avant la fondation du monde, et je crois que c'est vrai. Et je crois que notre vie est quand même aussi dans ce sens-là. Je ne savais pas que j'allais me marier, je ne savais pas que j'allais la trouver, qu'elle était libre et qu'elle me proposerait de me marier. Comme je voulais être avec elle, j'ai dit oui.
Ouais.
Voilà, je ne savais pas plus que ça.
Ouais.
Et à l'époque, on ne consultait pas Dieu pour nos choix.
Oui, mais c'est ça le truc, c'est que ceux qui ne connaissent pas Dieu, Dieu est quand même en eux.
Oui.
Après, c'est à nous de le faire grandir avec la volonté, etc. etc. Donc vous avez quand même ce petit...
Faut connecter.
Voilà, ce petit instinct que les gens appellent instinct, mais du coup, qui est le petit esprit de Dieu, la petite place qu'on a.
En fait, ce qui se passe, c'est que tu n'as, nous, on connaissait, enfin, on avait notre forme de foi, on croyait un peu en Dieu, mais sans plus que ça.
Oui.
C'est pas le plus important.
Oui.
Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, Dieu a un plan dans ta vie,
oui.
et toutes les choses concourent à ce plan pour qu'il arrive à un moment, qu'il se présente à toi et qu'il dise, voilà, je suis ton créateur.
Oui.
Voilà, j'ai mis tout ça en place pour qu'aujourd'hui tu comprennes, est-ce que tu veux m'accepter dans ta vie
c'est
ou pas
ça, oui.
Et à la limite, ce que tu as fait avant, on va s'en occuper. En gros, c'est ça. Hein.
Exactement.
On va s'arranger pour ça.
C'est vrai. Moi, quand je sais que j'ai été vraiment sérieuse, parce que je vivais plus une relation religieuse avec Dieu, et quand j'ai vraiment été impliquée, que j'ai vraiment connu qui il était, j'ai eu, comme vous savez, ce film où ça se passe à Noël et puis on a une espèce de petit bonhomme qui vient et qui vous ramène en arrière. Vous voyez ce film? Et ben moi, c'était comme ça en fait. Ramener tous les petits moments pour me dire j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Tu voyais
c'est
pas,
ça.
Mais j'étais là. Quand vous avez rencontré le Seigneur, quand vous avez rencontré Jésus, vous êtes peut-être dit est-ce que finalement
ah oui,
c'est.
Ah oui, voilà. Oui. Alors, quand on s'est converti, donc après 3 ans de mariage, vu qu'on était quasiment dans le divorce au quotidien, on parlait de divorce tous les jours. Quand on s'est converti, les combats, bien sûr, ont commencé, peut-être même un peu plus fortement, hein, parce que l'ennemi, on sait bien que si Dieu existe, le diable existe, et il savait peut-être ce qui se préparait devant nous, et il voulait nous séparer à nouveau. Et donc, Eric souvent s'est posé la question, est-ce que tu es vraiment la femme que Dieu veut que j'aie, puisque tu ne me suis pas complètement, parce qu'Eric était tout de suite, dès qu'il s'est converti, il était vraiment bouillant. Et moi, j'avais reçu le Seigneur dans mon cœur, mais j'y allais plus doucement. Et il se posait des questions. Peut-être que c'est que Dieu veut pas que tu sois ma femme, etc. Donc il y avait toujours un peu cet esprit de division, de séparation. Et il a fallu combattre et prier. Et on avait notre mère spirituelle qui nous aidait justement et qui priait avec nous et qui nous expliquait que non, c'était justement l'ennemi qui voulait nous séparer parce qu'on était mariés et le Seigneur, c'était sa volonté qu'on reste ensemble.
Ouais.
Donc il y a eu de la prière
et
on s'est posé des questions et à un moment donné, c'était clair. Quoi.
Ouais.
Ça a duré quoi? Peut-être 6 mois après notre conversion, ce genre de combat, 6 mois, un an.
Ouais.
Mais et quand Dieu est là, quand il connaît notre cœur et qu'on veut sincèrement lui obéir, et on ne peut pas se tromper, quoi, il va nous guider.
Comme quoi, Dieu rétablit les mariages aussi.
Amen, bien sûr.
Et
on est complètement restauré.
Et sauve les mariages.
C'est ça, exactement.
Sauve les mariages, absolument.
Parce que même dans les relations hors mariage, on peut par exemple parler des amitiés, il y a des gens qui vont progresser beaucoup plus rapidement et ils vont laisser les autres parce qu'ils se disent il est un peu trop lent, ou bien
ils se consacrent
pas assez. Et du coup, ils laissent les gens de côté. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur Seigneur non. veut, justement. Non. Il veut qu'on soit tous accompagnés et que l'un tire l'autre. Et puis, on ne sait jamais quand nous, on sera ralenti. Du coup, l'autre va nous tirer aussi. On peut lire dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 3, dans la traduction Martine de la Bible, « Remets tes affaires à l'Éternel et tes pensées seront bien ordonnées ». Avez-vous recommandé ce projet de cœur à Dieu? Comment avez-vous cherché sa confirmation pour être sûr que vous étiez l'un pour l'autre?
Alors, il arrive un moment où quand tu te convertis, que tu lis la Bible et que tu commences à obéir à Dieu, je dis bien tu commences au début, hein, puisqu'il appuie sur des points de ta vie, comme tu l'as dit.
Oui.
Tu vois, moi, tout de suite, quand je me suis converti, bah, j'ai pris mon pistolet, je l'ai remis au pasteur.
Ouais,
tu vois, il y a des choses qui te touchent le cœur et tu sais...
Oui.
Et le mariage en fait partie. C'est qu'à un moment, il commence à s'afficher dans ton cœur que tu es marié. C'est Dieu qui a permis ce mariage et le mariage ne se rompt pas. Donc, il faut aller jusqu'au bout maintenant.
Tout à fait.
Et quelquefois, ça peut te paraître compliqué parce que, justement, on parlait d'aujourd'hui, le mariage ne veut plus rien dire. Ça ne va pas, je divorce, on en trouve une autre. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est ça ne va pas, tu vas prier, les choses vont changer, je vais agir dans votre vie, je vais restaurer votre couple, je vais sauver votre couple, mais on ira au bout. Parce que c'est un sacrement divin, c'est quelque chose que Dieu a établi et il est hors de question que ça n'aille pas au bout.
Tout à fait.
Donc, on a été convaincus, déjà, le mot divorce est parti de notre tête, puisque ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Donc, déjà, quand tu sais que quelque chose n'est pas dans la volonté de Dieu, tu l'oublies. Tu ne vas pas commencer à penser à ça si c'est tu sais que ce n'est pas bien.
C'est ça.
Selon Dieu.
Oui.
Maintenant, quand tu ne connais pas Dieu, tu penses au divorce,
bien
c'est normal.
Bien sûr, forcément.
Petit à petit, ça s'est effacé de nos têtes,
ce mot.
On a pris conscience que ce que Dieu unit, il ne le sépare pas. Donc, c'était forcément la volonté de Dieu. Cette conviction a été crescendo dans notre vie. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, comme ça, mais tu vois, ça a grandi.
C'est ça.
Jusqu'à devenir une certitude absolue, jusqu'à devenir un amour parfait, merveilleux.
Oui.
Je dis ça parce qu'elle est à côté de moi.
Et puis moi, je le vois aussi. Je suis témoin. Mais... il faut aussi que quand on parle de divorce, par exemple, quand on a des pensées qui ne sont pas celles de Dieu, par exemple, ici, on parle du divorce, c'est que, comme tu l'as dit, on sait qu'il y a Dieu existe, on sait qu'il y a le diable existe. Et puis, à partir du moment où on insère des choses comme le divorce dans notre vie, dans notre bouche, l'ennemi, l'esprit mauvais, va en profiter pour appuyer.
Oui,
donc, pour vraiment nettoyer ces choses.
Ce qu'on confesse de la bouche, d'ailleurs, c'est bien
vrai.
Ce que dit la parole.
Tu vois... un couple ne va pas, un couple de chrétiens, admettons, c'est un exemple. Bon, tu peux, à un moment, les pensées peuvent te venir de divorce et tout, mais si tu es fondé dans la parole de Dieu, tu t'assois, tu sais que ta réflexion, ton process, il ne peut pas être dans le divorce. Donc tu oublies ça, et tu commences à travailler dans une restauration, une réparation, dans un autre domaine, mais surtout pas dans celui-là.
Exactement.
Ça, c'est important.
Mais c'est un mot qui ne viendrait même plus dans notre tête.
Non, pas du tout. Oui, c'est clair. Et puis surtout aussi, c'est qu'il faut faire attention aux mots, en dehors même du divorce, de toute chose que l'on met dans notre bouche ou dans notre pensée. Il faut savoir aussi les chasser directement tout de suite pour que ça ne s'imprègne pas, ne prenne pas racine, quoi.
Mais comme tu disais dans une de tes prédications, tu peux avoir les pensées, mais ne pas les prononcer déjà.
Oui.
Parce que les pensées, tu arrives à les chasser. Mais quand tu commences à les dire audiblement,
à les
confesser les choses,
c'est ça.
Crées quelque chose. Comme la parole est créatrice, tu peux créer. Donc effectivement, dans un couple qui ne va pas, de prononcer le mot de divorce sans cesse, c'est quand même très mauvais.
Exactement. Quel conseil pour s'assurer que la personne qui s'intéresse est la bonne personne pour soi? Que ce soit aux croyants et aux non-croyants.
Alors, surtout aux non-croyants, c'est un peu difficile.
C'est un peu difficile à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, parce qu'on a plus l'habitude de consulter Dieu pour nos projets de vie. Donc, si tu ne connais pas Dieu, tu ne vas pas demander à Dieu. Là, ça va être plus difficile de te conseiller. Mais en même temps, c'est possible, parce que la Bible donne des conseils, et on peut y trouver, on n'a pas le temps là, mais on pourrait trouver dans la parole de Dieu des éléments qui feraient que même pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il pourrait trouver des conseils dans la Bible pour le choix de son conjoint, ce serait important.
Ouais. Et puis il y a aussi tout le simple conseil, c'est juste méditer sur ses envies, sur ce qu'on a comme projet, quoi. On se pose des questions, on ne fonce pas...
Oui, c'est ça, il faut éviter l'aspect premièrement juste charnel, ça va au-delà. Mais c'est plus difficile pour nous de conseiller quelqu'un qui ne croit pas en Dieu par rapport au choix du conjoint, parce qu'on va lui dire des choses qui ne vont pas avoir d'écho forcément, et c'est plus dur.
Ouais.
Maintenant, pour un croyant, alors là, oui, il y a des conseils.
Il y en a plein.
Il y en a plein. Premier conseil.
La journée ne suffira pas, là.
C'est ça.
Consulte Dieu, évidemment. Deuxième chose, parle-en à ton entourage, parce qu'il est bon d'avoir des gens qui disent « Oui, vous allez bien ensemble. Non, vous n'allez pas ensemble. » Je ne dis pas que c'est une science exacte, mais quand même, ça peut aider. Voilà, des choses comme ça, d'avoir un entretien avec son pasteur aussi, c'est important. Ça, de se marier... Alors, je ne suis pas sectaire, mais de préférence avec quelqu'un qui a la foi, bien évidemment, parce qu'autrement, ça va être compliqué. Voilà, de se connaître dans une période de fiançailles, on discute de nos projets de vie, voir si on a les mêmes idées, les points communs. Hein, c'est ça, Isa, en gros.
Et puis aussi, il ne faut pas oublier que Dieu parle. Donc, il faut conseiller aussi aux personnes qui veulent s'engager à lire la parole. Parce que Dieu peut révéler dans sa parole une direction. Un non ou un oui.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Il ne faut pas oublier que Dieu est vivant. Donc, il peut parler par l'intermédiaire d'un pasteur, par une révélation. Donc, consulter Dieu par une prophétie.
C'est vrai. Puis, la communion aussi, on peut discuter avec le Seigneur, on prend un
temps,
on se met à part.
Ce
n'est pas quelque
prière.
Chose qui est dit beaucoup. Même dans les églises, on n'en parle pas beaucoup. Je sais que j'en parlais aussi avec des frères, ils étaient étonnés. On peut parler à Dieu ? C'est là, oui.
Oui, c'est un dialogue.
Exactement, on se pose, on prend le temps de, comme on dit bibliquement, chercher sa face.
Et il répond.
Et tout à fait.
Oui,
il répond. Oui. On a plein d'exemples qu'on pourrait citer de réponses de Dieu à des prières précises.
Exactement. Pour ceux qui ont une révélation à l'avance, un songe ou une vision, même une prophétie, comme on vient de le dire, ou une conviction, de qui sera son conjoint, que doivent-ils faire s'ils doivent faire quelque chose hein ?
D'abord, prudence,
oui.
Parce qu'on peut se tromper aussi.
<C'est ça.
rire> vaut mieux aussi que la personne qui est visée soit elle-même au courant. C'est mieux si tu veux.
C'est
parce
clair.
Que si tu t'approches de quelqu'un et que tu lui dis « Dieu m'a dit que tu deviendrais mon mari ou ma femme », peut-être que lui, il a pas reçu ça. Donc, un peu de prudence. C'est quand même important. Ça d'abord, et puis qu'est-ce que tu dirais ?
Bah, je dirais que pour éviter d'entretenir quelque chose qui est complètement fondé sur le charnel, peut-être directement voir la personne quand même.
Oui, évacuer ce problème.
Pour l'évacuer, parce qu'autrement, c'est, comme dit la parole, un espoir différé rend le cœur malade. Si la personne entretient quelque chose qui n'est pas du tout de Dieu, et celle-ci fait un film en
c'est
parlant...
C'est ça
vaut mieux carrément aller voir la personne et voir s'il y a au moins des sentiments, quelque chose. Et
Ne pas lui dire, comme le pasteur Eric a dit, mais aller, commencer à connaître cette personne,
absolument.
C'est ça ?
Absolument. Voilà.
D'accord.
Ou tu peux faire d'une autre façon, puisque nous sommes des enfants de lumière, on est censé être francs, etc. Si vraiment tu es quelqu'un d'équilibré dans ta foi, que Dieu t'a montré malgré tout quelqu'un et que la personne semble ne pas faire écho, tu peux, après un temps de prière et au bout d'un moment, aller voir cette personne, lui dire voilà ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je peux me tromper, mais en tous les cas, je viens te voir pour partager ça et qu'on évacue si c'est vrai ou si c'est pas vrai,
c'est vrai,
parce que ça peut nous libérer, ça peut me libérer en tous les cas, moi, d'un faux espoir.
Exactement.
Et si tu as affaire à un frère ou une sœur qui est quand même sensé dans la foi, il te dira bah non, Angela, écoute, écoute, t'as bien fait de me le dire, moi j'y pensais un peu, tu vois, mais tout dans la simplicité, dans la franchise et.
Pas nourrir des choses dans son cœur tout seul et puis fantasmer sur la main.
Éviter aussi ce délire, il me l'a dit, lui, il le sait pas, mais c'est lui.
Je sais.
Lui, n'est pas au courant, mais moi, je sais.
Exactement. Non, et puis, on nourrit au fur et à mesure des années, parce que je connais des personnes qui ont eu des révélations et qui disent rien, et elles nourrissent ça toutes seules. Je me dis, ça doit être quand même difficile,
Surtout que tu peux fermer la porte à quelque chose d'autre.
Ah oui, c'est vrai.
Quand tu restes bloqué sur une personne, et peut-être tu verras pas celui qui est à côté de toi, que Dieu a prévu.
Mais si t'es trop focus sur quelqu'un, eh ben, ça peut rater.
C'est clair. Et puis surtout, quand on reçoit une révélation, un songe ou une vision, il vaut bien l'examiner, comme tu as dit. Exactement. Pour ceux qui cherchent à obtenir une révélation, parce qu'il y en a qui cherchent quand même sur un conjoint et un mariage, est-il bon de demander à Dieu ou de ne le faire savoir, ou Dieu le fait naturellement à tous ?
Alors, un des principes quand même bibliques qui est important, quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu le laisses s'exprimer.
Oui.
C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément te répondre dans le canal que toi t'as choisi.
C'est vrai.
Ça peut être d'une façon complètement inattendue, d'une façon que tu n'as pas prévue, et ça peut être une réponse en te montrant carrément quelqu'un d'autre aussi. Donc si tu demandes à Dieu... ne présume pas de la réponse qu'il va te donner. Laisse-le faire.
Oui.
Et de la façon dont il va te
donner. Et de la façon, je te prends un exemple rapide, là c'est vraiment pour les chrétiens, très rapide. Tu es dans une église, tu vas aux impositions des mains, tu dis voilà, je suis malade, Dieu va me guérir, je vais aux impositions des mains, et s'il ne me guérit pas, bah, c'est que ça ne marche pas. Bah, peut-être que Dieu a prévu de te guérir, mais que ça ne sera pas aux impositions des mains, sera en rentrant chez toi. Donc ne mets pas, ne ferme pas la porte aux choses, et Dieu va te répondre à sa façon.
D'accord, mais c'est bon de demander à Dieu.
Mais il faut demander, c'est écrit, demandez et vous recevrez.
Et vous recevrez. C'est bien ça. Le coup de foudre est une bonne confirmation? Le coup de foudre dont on parle.
Il peut y avoir un coup de foudre, c'est-à-dire une attirance physique, tout simplement.
Le coup de foudre, c'est une attirance physique.
Voilà, une attirance physique. Mais ça ne suffira pas pour construire quelque chose, et ça ne veut pas dire que ça vienne de Dieu non plus.
C'est ça, exactement.
Si ce n'est que physique, il manquera, il y aura un déséquilibre de toute façon dans, dans le mariage.
Exactement, à un moment donné, ça va. Il y a une durée limitée. Au coup de foudre en général.
Oui, parce qu'après, bon, bah, quand tu laisses traîner tes chaussettes par terre, bon, bah, ça peut créer des soucis. Hein. Il y aura pas toujours. Voilà.
Donc il faut qu'il y ait autre chose
que le physique. Et on n'est pas toujours au top. Hein, la femme, elle n'est pas toujours en talons chez elle. Et puis le mari met ses chaussons à un moment donné aussi. Ouais. Donc il faut qu'il y ait aussi autre chose quand même.
Ouais. Hein. Et puis on va tous aux toilettes.
Et qu'on regarde dans la même direction.
Mais il ne faut pas exclure le coup de foudre non plus.
Oui,
ça peut être, Dieu peut se servir de ça.
D'accord, ok.
Pourquoi pas.
Tout est possible.
Du moment qu'il y ait d'autres confirmations qui viennent, tu vois,
il ne
faut rien exclure.
On cherche, quoi.
Oui, on cherche.
Vous avez une cellule de conseil pour les couples à l'église, Espoir et Vie, et vous avez d'ailleurs fait une nuit de prière pour les célibataires. Racontez-nous.
Alors, c'était dans le cadre de la jeunesse. Mm-hmm. On avait des sœurs, des jeunes femmes qui sont malheureusement dans la souffrance aussi d'attendre un mari.
D'accord.
Alors certaines justement parce qu'elles ont fixé sur des rails leur demande et qu'elles n'en sortiront pas. D'autres parce que ça ne vient pas, etc. Et donc on avait prié, on a passé une nuit de prière pour demander à Dieu d'ouvrir les portes dans ce domaine, de parler, de se manifester, de pourvoir. Et je dois avouer qu'à Paris, non, parce qu'on n'a pas refait la chose, mais où j'étais avant, j'étais pasteur de jeunesse, et ben, beaucoup de jeunes se sont mariés. Beaucoup de jeunes trouvaient des épouses ou des époux. Ouais. Je les ai d'ailleurs mariés.
Et des bons mariages.
Et des bons mariages solides dans la foi, dans des trucs géniaux, quoi. Donc ça marche, ça marche. On peut prier pour ça, passer une nuit de prière pour ça, et c'est un sujet comme un autre.
La puissance de la prière.
Oui, tout à fait.
Deux personnes commencent à se fréquenter et ont reçu confirmation favorable de leur désir d'engagement. Des conseils lorsqu'elles n'avancent pas dans leur fiançailles ?
De prier. De prier. Voir ce qui bloque, ce qui empêche justement que ça évolue de la bonne manière.
D'accord.
Maintenant, si elles ont reçu dans leur cœur que ça venait de Dieu, si ça vient de Dieu, ça se fera.
Oui, d'accord.
Mais si ça n'avance pas, prions pour voir ce qui bloque.
Oui, c'est ça.
Un exemple aussi peut-être à ce sujet, j'ai en mémoire un des jeunes qui sont mariés et qui vont bien, et je les avais en entretien de mariage, et ils me disent, voilà, on va se marier, et je dis, oui, je pense que c'est bien ce que vous allez faire. Simplement, je vais attendre qu'il ait son diplôme, lui, il va être ingénieur, moi, je vais être ingénieur, on va attendre. J'aurais dit, non, vous arrêtez ça, vous vous mariez parce que vous vous êtes trouvés, et votre vie, vous allez la construire ensemble, aussi bien la période étudiante, étudiantine, que la période où vous aurez moins de sous, etc. Mais n'attendez pas que vous ayez touché votre but dans les études, dans la formation, dans le métier, pour vous marier. Dieu vous a parlé, il vous a montré que c'était elle. Il n'y a aucune raison de ne pas construire dès maintenant quelque chose ensemble. Et ils l'ont fait.
Ils ont deux enfants aujourd'hui.
Ils étaient mariés. Mais si on les avait laissés faire, ils seraient peut-être encore aujourd'hui en train de faire leurs études, bac plus 7, et puis toujours fiancés.
Oui, c'est ça.
Donc il y a un moment, il faut passer à l'action quand même.
C'est ça aussi le problème du mariage hors de Dieu, des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est qu'ils attendent d'être complètement complets avant de se dire « Ok, je suis prête à me marier » et en fait, ce n'est pas du tout ça. Quoi.
Bah, c'est comme si on voulait être parfait avant de se convertir.
Ouais.
Ou je me baptiserais quand je serais parfait.
Oui, oui, oui.
Non,
c'est vrai. Il y a des chrétiens qui pensent comme ça.
Voilà.
Enfin, il y a des personnes qui pensent comme ça. Ils ne sont pas encore chrétiens.
Sauf que quand on avance à deux, qu'on construit à deux, effectivement, ça renforce les liens.
C'est vrai.
De faire des projets en commun, même construire une maison en commun. Voilà, tous ces projets-là, si on les partage à deux, qu'on les vit ensemble, qu'on traverse les difficultés ensemble, c'est là que ça renforce vraiment le couple.
C'est vrai. C'est pour ça que beaucoup disent « Ah, j'ai envie de me marier avec mon meilleur ami ». Mais avant de... Meilleur ami, tu le connais forcément. Donc, c'est ça le début, entre guillemets, le début du mariage. Quoi. C'est le fiançailles, on se connaît, on apprend, et après, on devient meilleur ami. Non ?
Alors, mon mari est devenu mon meilleur ami.
Voilà, exactement.
Mon mari,
c'est ça.
C'est effectivement, c'est vrai. Oui. Je peux dire, je lui partage tout. Je n'ai pas de jardin secret. Oui. Mais ça se construit, ça.
C'est ça, exactement.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes couples, ils veulent que ça soit immédiat. Mmh. Voilà. Mais non, un couple se construit, oui. Et il faut accepter que, petit à petit, mmh. bien sûr, le Seigneur va faire que vous êtes deux personnes qui vous rencontrez, mmh. avec vos personnalités, mmh. votre vécu. Mmh. Donc, le Seigneur va travailler chacun.
Oui.
Et puis, à un moment donné, ce couple, mmh. voilà, bah, on devient un.
Mmh. Donc, on ne peut pas se fiancer ni se marier trop tôt. C'est jamais trop tôt.
Non, non, c'est jamais trop tôt.
Ok, d'accord.
Ouais. Le temps de Dieu, voilà.
Oui. Ok, très bien.
Si Dieu t'a montré la personne, si tu as eu des confirmations et si les éléments sont ok pour que vous puissiez vous marier, je vois pas l'intérêt d'attendre.
Oui.
D'abord parce que, soyons concrets, t'es fiancé, tu trouves ton mari ou ta future femme, ton futur mari beau, le physique est là, t'as envie, tout ça, t'as la chair qui parle, et c'est pas la peine d'attendre des années, parce que tu vas brûler après.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Alors qu'est-ce qu'on appelle brûler déjà?
Non, c'est un jeu de mots. Mais dire voilà, tu vas aller plus vite que la musique, donc autant te marier et puis vivre avec ton épouse ou ton époux. Et...
Ouais.
Parce que c'est ça aussi pour les jeunes d'attendre, c'est long, c'est dur, c'est terrible, c'est...
Oui, oui.
Alors pourquoi se mettre des échéances à Bac plus 7 avant de...
C'est vrai.
Hein, c'est...
Ouais. Comment se préparer à l'étape connaissance de l'un et de l'autre, puis aux fiançailles, ensuite au mariage? Il y a tout ce cheminement-là. Comment on arrive à tout ça?
Au début, ça peut être au sein d'un groupe. Hein, on se rencontre, on commence à voir que la personne nous intéresse plus que celle d'à côté.
Ouais.
Hein, on va peut-être s'isoler. Quand on dit s'isoler, c'est pas aller dans une chambre à coucher. Hein,
ouais.
Mais peut-être qu'on va partager un restaurant ensemble, s'écarter un peu plus du groupe de temps en temps pour approfondir la relation.
Ouais.
Et puis, voilà,
partager
et voir où on va, si on va dans le même sens.
Les valeurs, quoi.
Les valeurs qu'on partage, normalement les valeurs de Dieu.
C'est ça, exactement, bien sûr.
Peut-être avoir déjà des temps de prière ensemble.
Ouais, c'est bien ça. Ouais.
Et je voudrais dire peut-être quelque chose aux auditeurs croyants, en tous les cas qui sont dans cette démarche-là. Il faut être réducteur dans un sens, c'est-à-dire mettre Dieu dans l'affaire.
Oui.
Mais une fois que ça c'est fait, il n'y a pas un schéma type, il n'y a pas un seul comment. Il peut y avoir une multitude de façons, donc n'enfermez pas ou n'enfermons pas le process de Dieu dans un seul type. Je suis jeune, je suis dans une église, ça va se passer dans l'église. Non, peut arriver.
C'est vrai, c'est vrai.
Du moment que Dieu soit dans l'affaire.
C'est vrai.
Et je pense qu'il faut, voilà, il faut réduire à Dieu seul, mais par contre, une fois qu'on a réduit à Dieu seul, il peut tout faire.
C'est vrai.
Il n'y a pas un schéma type.
Exactement.
Parce qu'autrement, on devient formaté, on devient
religieux
rigoureux, rassis. Tu vois, on sent plus bon,
quoi.
Et on complique
un peu.
Et on complique les choses.
C'est vrai.
Donc les jeunes, il faut qu'ils soient libres, mais en Dieu.
D'accord.
Si je me suis bien fait comprendre.
Oui, tout à fait. Alors vous, vous êtes rencontrés forcément, comme on a expliqué, hors des chantiers du Seigneur.
Oui.
Mais comment vous vous êtes rencontrés, enfin je veux dire, comment s'est déroulée votre rencontre jusqu'à ce sentiment amoureux qui est né?
Mais en fait, je pense que nous, ça a été, dans mon cas, une attirance physique.
D'accord.
Uniquement. Parce qu'il n'avait aucune gentillesse. voilà, c'était... Mais non, parce qu'il vivait dans un monde...
Bah oui.
Il était sous cachet, enfin voilà, c'était purement physique. Et j'étais, bien sûr, pas chrétienne, donc attirée par les choses un peu obscures, mystérieuses, et Eric était très mystérieux, en fait.
Oui.
Voilà, ça m'a attirée, mais c'était purement physique. Je peux dire que mon mari est devenu vraiment la personne... que j'ai aimé à partir de sa conversion.
Ah,
voilà.
Okay.
Avec des vraies valeurs, quelqu'un qui me respectait, qui avait la crainte de Dieu et qui prenait soin de moi, ce qu'une femme attend, quoi.
Ouais, c'est puissant, ça, hein.
Oui. Mais au début, c'était vraiment physique, parce que, bon, assez jeune aussi, on recherche le beau garçon, on est séduit, et c'est tout, quoi. On voit que ça.
Parce que j'étais très, très beau.
Ben, toujours, non.
Et puis, voilà. Mais vraiment, c'est Dieu qui a permis ça. Ouais. C'était pas possible.
Ouais. Pareil, Eric?
Oui, c'est ça. Au début, dans notre cas, en tous les cas, c'est vraiment physique.
Oui.
Et après, ça se construit, comme l'a dit Isa. C'est une attirance physique. Mmh. Et puis, comme je te l'ai dit, on était... Voilà, on ne sait pas pourquoi. Tu dis oui au mariage. Mmh. C'est parce que Dieu avait pris en charge l'affaire. Mmh. Et il allait créer son plan merveilleux dans notre vie.
Mais il y avait forcément des traits de caractère qui t'attiraient au-delà du physique.
Pas tout de suite.
Pas tout de suite,
pas
d'accord.
Pas tout de suite, non.
Ok.
Non.
Pas du tout, même.
D'accord. Ah ouais, vous étiez déjà accompagné.
C'était
vous,
vraiment physique. C'était purement physique. Ouais, ouais, ouais. Oui.
C'était okay. Coup de foudre, là. Ouais. Tu parlais
exactement.
D'un coup de foudre,
oui,
tout
ouais, ouais,
c'est
ouais.
ça, quoi.
Ouais.
Le coup de foudre physique, de personnes qui flashent, de jeunes, ils sont bien. Bon, ben voilà.
OK.
Et puis après, ça se concrétise, quoi.
D'accord.
C'est pas un schéma type, hein,
ouais, c'est
une
vrai.
Fois de plus.
Exactement. Vous avez le parfait témoignage. Parlons relations intimes, sans aller dans les détails, bien sûr. Avez-vous attendu avant de vous marier?
Ah ben non, puisqu'on était...
Ah ben non, nous, clairement non.
Oui.
Non.
Faut-il attendre avant l'union, même lorsqu'on est fiancé?
Oui. Mm. Oui.
Mm. Pourquoi?
Je pense que ça fait partie de la découverte. Mm. On se garde pour l'autre. C'est un moment, au moment du mariage, où vraiment on échange tout.
Oui.
Hein? Mm. L'union des corps fait partie du mariage. Mm. Et je pense que quand le mariage a été officialisé devant Dieu... l'union des deux corps confirme ce mariage.
Mm.
Voilà. Mm. Et le faire avant, je trouve que c'est enlever un peu de la valeur au mariage.
Ouais. Ouais.
On perd quelque chose, je pense.
Ouais. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte qu'une relation intime, c'est tout aussi important dans la construction du mariage. Hein. Ouais, c'est ça. Paul écrit dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 16, « Voici donc, je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Un conseil pour les impatients ou ceux qui ont du mal à se préserver avant l'union maritale?
Là, c'est la sanctification, puis prier. Hein. Je crois que... on est vraiment soumis aux lois de la chair.
Oui.
Hein, et c'est vrai qu'on a tendance à obéir plutôt à notre chair qu'aux injonctions du Saint-Esprit. Et sans la prière, on ne peut pas.
Oui, oui,
Je crois que si on ne prie pas, on tombe automatiquement.
Oui. Puis on peut mettre des limites aussi. Du coup, si on sait qu'on est faible, on sait que la chair est plus forte que l'esprit qui est en nous et on met des limites.
Bah, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas dans une chambre.
Oui, c'est ça.
Voilà. Il y a des lieux où on évite.
C'est clair. Et puis, on ne se touche pas de façon un peu bizarre aussi.
Voilà, on évite de chauffer la chair. Hein,
c'est bien dit ça.
C'est ça.
Oui, exactement. Paul a écrit aussi aux Éphésiens, au chapitre 5, versets 22 à 23, que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur, parce que leur mari est chef de sa femme, comme le Christ aussi est chef de la congrégation, étant lui un sauveur de ce corps. Puis, un peu plus loin, dans le verset 28 à 29, il continue, c'est de cette façon que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Mmh. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ aussi le fait pour la congrégation. Alors, un verset délicat qui, mal compris, cause beaucoup d'incompréhension dans la relation homme-femme aujourd'hui, et à tort. Quelle est la position d'une femme et d'un homme dans le couple, dans un couple, pour bien comprendre ces versets?
La règle, elle est établie par Dieu. Mmh. Hein, le Christ est le chef de l'Église et le mari est le chef de la femme. Dans mon cas, ça ne me pose aucun problème.
Ouais.
Par contre, tu as oublié un verset, Angela, qui est important. En ce qui concerne les hommes, il est marqué que le mari doit prendre soin de sa femme afin que rien ne vienne faire obstacle à sa prière. C'est très, très important aussi.
Ouais.
L'homme, je pense que si notre mari respecte Dieu, aime Dieu, craint Dieu, on n'aura aucun problème à se soumettre à lui.
D'accord.
Hein, c'est quelque chose qui va avec. C'est-à-dire que ce n'est pas la femme seule qui se soumet à son mari. Parallèlement, le mari, il aime sa femme et il la protège, il en prend soin.
Tout à fait.
Donc c'est une soumission quasi naturelle. Et ce n'est pas une soumission où on est rabaissé.
Oui.
Hein, parce que j'ai aussi mon droit de parole, mon avis à donner, mes conseils qu'Éric peut écouter.
Oui.
Mais dans une décision finale, effectivement, je peux accepter d'aller dans son sens, dans une envie de soumettre. Et on est béni.
Tout à fait, exactement.
Voilà,
oui.
On est béni.
Oui.
Quand la femme se soumet à cette règle-là, elle est bénie.
Oui.
Elle en tire un gain énorme.
Exactement,
dans sa vie.
Tout à fait.
Et elle s'épanouit dans le mariage.
Oui, je suis d'accord.
On n'est pas dans le schéma. La femme Amazon et le mari
conquérant.
Ou conquérant. On est dans une soumission divine qui vient de Dieu et que Dieu approuve. Christ était soumis à Dieu quand il était sur terre en tant que... Il y a une soumission divine dans laquelle coule la bénédiction de Dieu. Et si on vit cela dans notre famille, si on vit cela dans notre foyer, on est dans l'harmonie parfaite du divin et de l'ordre créationnel que Dieu a fait.
Tout à fait.
Et ça ne rabaisse personne parce que en étant le chef de la famille en tant qu'homme, des fois je me réfère à Isabelle, je l'écoute, je lui pose des questions, je fais attention à ce qu'elle dit, je prends soin d'elle. Et l'inverse est vrai. Et comme elle l'a très bien souligné, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières, si on ne vit pas comme ça, il y aura un obstacle dans la prière.
Tout à fait, oui.
Et quand on est comme ça, on est tous bénis.
Et puis c'est surtout qu'on ne peut pas avoir deux chefs dans une famille, quoi. Ça va être compliqué à un moment donné, il va y avoir des frictions, des...
Oui. Et c'est le tempérament de la femme aujourd'hui, cet esprit un peu, comme vous dites, Isabelle.
Oui, c'est vrai. C'est la société la qui femme, apprend, voilà, ne vous laissez pas écraser, les films et les bidules et tout ça, oui, et les chansons. Ouais. Et puis c'est du coup, on prend cette mauvaise valeur de la société au lieu de prendre la valeur de Dieu qui nous protège, qui nous apporte ce bonheur, cette paix dans le couple, en fait, du coup.
Tout à fait. Mm. Soyons des femmes, c'est selon
ça.
Dieu.
Exactement. Est-on destiné à une seule personne dans le monde entier ?
On nous l'a souvent posé, cette question.
Pour ceux qui disent « Ah, j'ai raté le coche
!» Je pense que Dieu nous conduit vers la bonne personne, de toute façon.
Tu rates pas le coche avec Dieu.
Oui.
Il va toujours... je trouve qu'on est trop dans le raisonnement, en fait, quand on pose ce genre de questions.
D'accord, ok.
Quand on est juste, quand on se laisse guider par Dieu, Dieu nous montre la personne qui va nous correspondre. Ouais. Et effectivement, imaginons, une personne est mariée depuis longtemps, le mari ou la femme décède. La personne a le droit de se marier.
Comme Ruth.
Donc ça veut donc dire qu'il peut y avoir une autre personne.
Oui, exactement.
Voilà.
Mais dans le cas où un célibataire, voilà, je ne sais pas, imaginons, il a une révélation d'une personne qui ne lui plaît pas, on va dire. Et puis il se dit, c'est la seule personne pour moi, comment je vais faire? Je suis obligée de me marier avec elle.
Qui lui a dit que c'était la personne?
Il a une révélation, je ne sais pas, comme on
j'ai
a parlé
du mal
tout
avec
à l'heure.
Ça.
Ouais,
c'est cool. Si Dieu te montre quelque chose à faire, il te donnera la capacité de le faire.
D'accord.
Et si Dieu te montre une personne, ben, il te donnera de l'aimer, cette personne.
Ah, bien dit. Exactement.
Tu sais, il y a un verset pour moi, je le cite souvent, je l'applique souvent. La parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli son effet.
Tout à fait.
Ça veut aussi dire rien, mais absolument rien de ce que Dieu te demande de faire ne te sera demandé sans la possibilité de le faire avec. Et ça marche aussi pour le conjoint.
Oui.
Imagine, tu es dans l'attente d'un mari. Dieu te dit, c'est celui-là. Tu es sûr, c'est confirmé, etc. Et celui-là, il ne te convient pas vraiment. Mais si tu as confié ta vie à Dieu,
c'est ça.
C'est forcément celui-là et ça va marcher.
Bien sûr.
Et c'est obligé. Est-ce que c'était le seul dans le monde? Là n'est même pas le problème puisque Dieu te le montre.
Oui, bien sûr.
C'est ça, donner sa vie
à
Dieu. C'est accepter le plan divin sur sa vie en ayant des confirmations honnêtes, sincères et conformes à la parole de Dieu. Et là, tu peux t'engager.
Oui.
Parce que tu trouveras le mari ou la femme formidable que Dieu avait choisi pour toi en tous les cas.
Exact.
Est-ce que c'était la seule au monde et tout? Quel est l'intérêt de se poser la question finalement?
Ça, c'est, du coup, on regarde ailleurs.
C'est ça.
Je ne me suis jamais posé la question de savoir si dans le monde, il n'y aurait pas eu une Isabelle un peu plus.
On dit que oui, aujourd'hui, c'était le seul qui me convenait.
Pour moi, c'est la seule.
Puisque Dieu a permis cette chose, donc c'était lui.
Mais c'est un peu le problème de la société, les gens qui se disent je côtoie une personne parce qu'elle m'intéresse et puis je regarde toujours ailleurs, on ne sait jamais.
Oui, mais Dieu n'est pas de ce monde, c'est pas la société qui gère ce monde, c'est la parole de Dieu pour nous.
C'est ça, exactement.
C'est laisser conduire par Dieu.
C'est ça. Et puis du coup, c'est des personnes aussi, parce que c'est les hommes qui font ça, les femmes et les hommes qui font des listes, du coup, et qui se mettent dans des...
Les to-do listes.
Il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est toujours en général très physique.
Et il n'est pas comme ça.
Tu sais, dans la parole, c'est marqué que les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants de lumière. Je trouve que les chrétiens, ils ont tendance à compliquer un peu.
C'est vrai. Hein? Dieu leur donne, leur dit quelque chose et puis oui mais Jésus explique aux disciples dans le livre Matthieu chapitre 19 verset 12, en effet il y a ceux qui ne peuvent pas se marier parce que de naissance ils en sont incapables, d'autres le sont devenus par une intervention humaine, d'autres enfin renoncent à se marier à cause du royaume des cieux, que celui qui est capable d'accepter cet enseignement l'accepte. On en a parlé tout à l'heure, c'est le don de célibat. Jésus donc discute ici de ce don. Est-il sinon possible que Dieu n'a personne pour soi par notre caractère et donc qu'on soit amené à finir célibataire?
Si Dieu permet, si Dieu l'a décidé pour toi, tu le vivras bien.
Mais là, je parle par notre caractère.
Oui, alors là,
à cause de notre caractère.
Ouais. Si on, comme on dit, on chemine avec Dieu, on est amené à changer, mais on est trop...
Dieu a quelqu'un pour toi,
d'accord.
Mais parce que tu as mauvais caractère, Dieu veut d'abord que tu changes.
Exactement.
Mais si tu lui obéis, il n'y a aucun problème, tu auras la personne.
Exactement.
Donc, je veux dire, c'est à toi de jouer.
C'est ça. Parce que du coup, voilà, on a un caractère et Dieu a préparé quelqu'un qui convient à notre caractère. Mais si nous, on ne veut pas changer avec notre Seigneur, l'autre personne va continuer à attendre. C'est comme ça un petit peu que ça fonctionne ou... on ne va pas combiner parce que ça ne va pas marcher, non? C'est un peu trop imagé.
Il y a des couples qui se marient, bien qu'ayant des caractères très difficiles l'un et l'autre. Et le fer aiguise le fer. À un moment donné, ils arrivent à faire des concessions chacun pour plaire à l'autre, pour plaire à Dieu. Et le mariage va dans le bon sens.
D'accord.
Hein? Mais encore une fois, je reprendrai la question dans l'autre sens, Angela.
D'accord.
Cette question-là n'a pas lieu si tu obéis à Dieu. Ouais. Tu vas forcément te marier parce que tu vas changer.
Oui.
Tu vois, il faut prendre... C'est toujours Dieu au centre.
C'est ça.
Toujours Dieu au centre. Et si Dieu est au centre, il en découle le reste.
Amen.
Et puis, je ne pense pas non plus que parce que tu as un sale caractère, tu ne vas pas te marier, tu vas souffrir un peu plus longtemps avec ton conjoint, il va y avoir de la bagarre, si au sens imagé du
bien
terme.
Sûr, ouais.
Mais vous allez grandir ensemble, vous allez vous transformer ensemble, vous allez grandir. Et donc, ça va aller.
Ouais.
Si Dieu est au centre.
C'est ça.
C'est ça.
Et puis, il y aura l'aide de l'autre aussi,
oui,
pour nous aider, etc.
Mais toutes ces questions-là, en fait, je ne dis pas que c'est ton cas.
Ah non, bien sûr,
mais elles sont...
C'est des questions du monde, en fait.
Voilà, mais elles sont mises sur la table parce que Dieu n'est pas au centre de ces questions.
Ouais.
Tu vois, dans une question comme ça, on dit... Si je ne change pas de caractère, je n'aurai pas mon mari. Mais si Dieu est au centre, tu vas changer.
Ben oui.
C'est obligé.
Ouais.
Puisque
mais il faut l'accepter,
change.
Du coup.
Et ben c'est ça l'obéissance.
Ouais, c'est ça.
Et puis tu n'obéis pas pour avoir un conjoint.
Oui.
Tu changes de caractère pour plaire à Dieu
c'est
déjà.
C'est ça, exactement.
Et il en découle un coup.
Je précise que j'ai mis beaucoup de questions que j'entends autour de moi dans les églises. Hein, et ça vient de beaucoup de chrétiens, malheureusement. Donc je compte sur vous pour que vous les répondiez. J'espère qu'ici, ils auront toutes les réponses qu'il faut. Jésus explique aussi dans Matthieu chapitre 22, verset 30. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. Alors j'imagine que vous avez déjà entendu cette question. Est-il ainsi nécessaire de vouloir autant se marier quand on sait que dans le monde nouveau, le mariage ne sera plus celui ou celle avec qui on a partagé notre vie, ne sera plus notre époux et notre épouse?
Ok, je vais répondre. Est-il nécessaire de se marier, puisqu'il y a ça? Demande à Dieu.
Ouais.
Pourquoi? Parce que Dieu a instauré le mariage, donc il a bien prévu un plan avec ça. Alors laissons les choses se faire
c'est comme
Dieu les a... prévu, c'est-à-dire tu es sur terre, tu te maries.
Ouais.
Soyons simples. Tu te maries. Quand on sera au ciel, on verra comment ça va se passer. Tu vois, je veux dire, voilà.
Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de craintes dans ces questions.
Oui. Moi aussi, si tu veux, je vais te parler à cœur ouvert. J'ai déjà prié, je dis Seigneur, moi c'est, si Isabelle décédait, tu m'arraches la vie, c'est ma femme et tout. Comment ça va être là-haut sans elle? Je ne pourrais pas, elle ne sera plus à côté de moi. On se pose ces questions, il est bien naturel. Mais Dieu, Dieu te donne une paix qui surpasse toute intelligence et qui te rassure et qui te dit chaque chose en son temps.
Il a un plan pour tout.
Hein. Exactement.
Il ne faut pas s'inquiéter autant.
Faut être zen.
Oui, c'est ça. On s'inquiète trop. Il y a beaucoup, c'est beaucoup de questions d'inquiétude. Hein. Paul conseille fortement dans sa lettre aux 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18, « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou y a-t-il le commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les icônes ?» Que conseillerez-vous aux personnes qui souhaitent malgré tout se marier avec un incroyant?
Je les déconseillerais.
Déjà, pour commencer. Éloigne-toi du feu.
Alors, il est évident qu'on a vu des personnes ramener des chrétiens ou des chrétiennes ramener des inconvertis dans l'église. Et puis la personne s'est convertie. D'ailleurs, la personne dont parlait Eric tout à l'heure, c'était une jeune personne qui est venue à une réunion de jeunes.
D'accord.
Et elle s'est attachée au Seigneur.
Oh.
Et voilà.
Okay.
Mais c'est un risque, hein, parce que la personne peut venir juste pour...
plaire à l'autre.
Voilà.
Ouais.
Donc, il faut être très prudent.
Oui.
Mais on ne conseillerait pas, effectivement, à un chrétien ou une chrétienne de se marier avec quelqu'un qui n'est pas attaché au Seigneur. Parce que, imagine ton dimanche matin, tu veux aller au culte, écouter la parole, et ton mari veut partir en week-end, passer des choses simples de la vie, mais qui reviendront de façon récurrente, et ça peut créer des tensions.
Oui, pour l'éducation des enfants.
Pour l'éducation des enfants aussi, et vous ne regarderez pas dans le même sens, parce que ton mari sera attaché aux choses du monde, de la terre, et toi plutôt aux choses du ciel, donc ça créera des problèmes, inévitablement. Et tu ne vivras pas une foi épanouie.
Tout à fait, oui. Il y aura des difficultés au sein du foyer qui est aussi important, du coup, hein, parce que c'est là où on rentre, c'est là où on vit, on grandit, ça va être tellement compliqué. Alors, est-ce plus facile le couple avec Dieu maintenant, là, que vous êtes...
Ah ben, ça n'a rien, bien sûr.
Oui.
D'abord, on ne serait plus ensemble, donc, c'est clair.
Oui.
C'est super
facile. Mais Dieu conduit notre couple, c'est certain, oui.
Les alliances, vous savez, ce petit objet que l'on tient dans la main gauche, on n'en parle pas dans la Bible, est-ce que c'est nécessaire?
Je ne sais pas si c'est nécessaire au fond.
C'est une marque que l'on monte pour faire fuir un peu les gens qui...
C'est culturel, un peu, chez nous, aujourd'hui, les alliances.
Oui, je ne sais pas si ça se fait dans tous les pays.
J'avoue,
il y en a, c'est une dot.
Peut-être dans d'autres pays, dans d'autres cultures, c'est pas comme ça. J'avoue, je n'ai pas réfléchi là-dessus.
Ouais.
C'est un signe, aujourd'hui, pour montrer qu'on est mariés, ça.
Ouais.
Mais l'alliance, elle est d'abord avec le Seigneur.
Ouais, c'est
donc,
exactement.
Partant de là. Alors, peut-être qu'il faut une... Je ne sais pas.
Pour éloigner,
point,
peut-être,
j'ai
éviter.
J'ai un bug, je ne sais pas.
Ouais.
Je n'ai pas réfléchi.
Bah, il est vrai que quand on voit une alliance au doigt, pour quelqu'un de célibataire qui voudrait trouver quelqu'un, si on se dit, non, il a une alliance, il est marié.
Ouais, ça éloigne
aujourd'hui,
déjà.
Aujourd'hui, ça ne dérange même
c'est
plus.
C'est vrai,
c'est
exactement.
Ça, le problème.
Il y en a qui vont faire un champ de bataille.
Ouais, c'est pas gênant qu'il y ait des...
Non, je ne pense pas qu'on...
Il y en a que ça n'arrête pas, en tout cas.
C'est clair.
Maintenant, ce que je trouve un petit peu déplacé, c'est ces bagues à je ne sais combien de prix.
Ah oui, oui.
Voilà,
oui.
C'est carrément indécent.
Là, c'est plus du voyer comme mon mari est riche, il va pouvoir tous mes besoins, mais tous les besoins sont dans la bague. Jésus dit dans le livre Matthieu chapitre 6 verset 33 « Continuez donc à chercher d'abord le royaume et sa justice et toutes ces autres choses vous seront ajoutées. » Alors beaucoup de célibataires s'inquiètent, particulièrement les femmes, de leur futur amoureux. Est-il légitime de s'inquiéter autant d'avoir un manque de foi dans ce domaine de notre vie ?
C'est un besoin tellement naturel, la femme a envie de se marier, d'avoir des enfants. Mm-hmm. Maintenant, comme tout, comme toute chose, on ne doit pas s'inquiéter, effectivement.
Oui. Mm.
C'est légitime parce que c'est un besoin et Dieu a mis en nous ce besoin. Mm-hmm. Ça devient illégitime quand ça nous perturbe à un point que notre paix s'en va.
C'est ça.
Et ça devient illégitime quand ça n'arrive pas trop longtemps parce qu'il faut commencer à comprendre pourquoi.
Oui, c'est vrai.
Tout simplement.
Mm-hmm.
Alors certains attendent patiemment, d'autres au bout de 6 mois, ils sont déjà dans une attente extrême.
Mm.
Si Dieu est dans notre vie, Dieu répond, Dieu va parler, Dieu va donner une réponse, et elle sera sa réponse, quoi.
Ouais. Un conseil pour ces célibataires qui se préoccupent un peu trop de cet aspect amoureux de leur vie, au point de devenir, comme on a dit, des dépressifs sentimentaux ?
Oui, vas-y, ça je donnerai après.
C'est difficile parce que ça touche tellement à ce que Dieu a mis dans le cœur de la femme ou de l'homme, de fonder un foyer, Le conseil, c'est de s'approcher de Dieu au maximum pour trouver cette paix et d'attendre paisiblement.
Ouais.
Voilà, parce qu'autrement, ils s'agitent, ils vont partout, ils peuvent aller d'église en église en espérant trouver la personne et être frustrés. Et on peut s'écarter de Dieu et tomber dans le péché. Donc, vraiment s'approcher de Dieu au maximum, chercher la paix de Dieu. Parce qu'autrement, l'inquiétude peut apporter effectivement la dépression.
Oui.
Le rejet de Dieu, la rébellion.
Oui.
Donc il faut entourer ces personnes.
Mm-hmm.
Si tu as dans ton église une personne comme ça qui est dans une inquiétude excessive par rapport au conjoint qui n'arrive pas, être auprès d'elle, prier avec elle, la rassurer.
Oui, c'est ça.
C'est avant tout chercher le royaume de Dieu.
Oui.
Chercher le royaume de Dieu, c'est ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu veut.
Des conseils très pratiques. La première chose, c'est de savoir que la foi.
Oui.
Avec Dieu, c'est un écosystème. Ça veut dire que ça marche avec des conditions.
Oui.
Il y a plusieurs conditions. Il faut que tu pries, il faut que tu lises la Bible, il faut que tu appartiennes à une communauté. Et là, tu as déjà quelque chose qui fait que Dieu peut te parler.
Oui.
À l'intérieur de ça, une fois que tu es centré sur Dieu, ne ferme aucune porte dans ta vie non plus, parce que tu as des gens, ce que tu appelles des dépressifs de la foi, de sentimentaux.
Sans sentimentaux.
Des gens, ce sont par exemple des vrais repoussoirs, parce qu'ils ont un caractère horrible. Mais s'ils ne sont pas dans une église, ou s'ils ne sont pas à la lecture de la parole de Dieu dans la prière, l'Esprit de Dieu ne les convaincra pas de changer. Donc finalement, ce problème va continuer.
Ouais,
donc si tu es dans l'écosystème, tu es sauvé. D'autres, ils ferment trop de portes.
Ouais.
C'est-à-dire que Dieu va leur donner un mari, mais ce sera de telle façon, de telle façon et pas d'autre. Ne ferme aucune porte. De toute façon, je fais attention
bien
quand
sûr.
Je dis ne ferme aucune porte.
Bien
ça
ne
veut pas dire fais n'importe quoi. À l'intérieur de la foi. Mais tu peux marcher dans la rue, ton conjoint peut se présenter, ça peut être un rassemblement de jeunesse,
au travail.
Ça peut être au travail. Ne ferme aucune porte.
Oui, oui.
Voilà. Mais une fois que tu es là, Dieu va agir, c'est sûr. C'est sûr.
Faut avoir confiance.
Faut faire confiance et être dans ce système de Dieu. Et trop de gens, ils sont à courir à droite à gauche, ou les jeunes, ils cherchent. Mais peut-être que c'est pas le temps parce que ton caractère est pas bien. C'est pas le temps parce que diverses choses, tu vois.
Ou bien que Dieu prépare l'autre.
Ou Dieu prépare l'autre. Ou peut-être c'est t'as déjà vu, mais que t'as trop peur et t'as pas été parlé avec la personne, tu vois. Il y a plein d'éléments. Je pense qu'il faut faire du cas par cas. Il y a pas de généralité.
Puis j'ajouterais, marié ou pas, hein, Dieu nous aime tout autant.
Oui.
Et marié ou pas, nous pouvons tout de même aimer sans attendre en retour. C'est cela le véritable amour. Hein. Aimer comme Dieu nous aime, comme Jésus nous a aimés quand il est venu sur terre. Et puis, vous le vivrez bien mieux. La paix de Dieu vous accompagnera et vous passerez à autre chose en attendant au service, comme Paul le conseille par exemple. Hein. On peut servir Dieu pour s'occuper et penser à autre chose.
Et s'attacher à Dieu avant la bénédiction.
Tout à fait.
En même temps, c'est pas tabou. Parce que je me suis aperçu au travers de l'exercice de pastoral que même chez les jeunes et tout, oh, on va pas prier pour ça, attends,
ou alors
on va pas passer une nuit de prière pour ça, attends, c'est pas comme ça,
Dieu c'est je me suis aussi posé cette question.
Dieu c'est pas un meeting, je sais pas quoi, mais si, attends.
Oui, parce qu'on réalise pas qu'il y a cette importance et du coup on le met dans la case futilité, quoi.
Mais oui, mais c'est un besoin aussi fondamental que d'autres, et Dieu a dit demander, et il n'est pas illogique qu'on passe du temps dans la prière avec un groupe de prière ou même à l'église pour cela.
Ça sert à ça aussi l'église.
Ça ne doit pas devenir obsessionnel au point de nous inquiéter.
Pas obsessionnel.
Mais l'église aussi peut avoir un intérêt aussi à ça, à cœur pour ses brebis, quoi.
Bien sûr.
C'est pas quelque chose de... de satanique, par exemple. À présent, parlons de vos œuvres, Eric et Isabelle. Vous faites déjà beaucoup, comme le conseille le Paul, dans sa lettre à 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, « Par conséquent, mes frères bien-aimés, devenez fermes, inébranlables, ayant toujours beaucoup à faire dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre labeur n'est pas vain pour ce qui est du Seigneur. » Alors, comment avez-vous découvert l'œuvre que Dieu avait préparée pour vous en tant que pasteur, Eric et Isabelle, femmes de pasteurs qui sont quand même de grands appels, hein, puisque vous serez, serez jugées plus sévèrement, paraît-il.
Coup de pression. <C'est ça. rire>
Les hommes, pas les femmes.
Alléluia.
Bon, comment j'ai découvert? Quand je me suis converti, j'ai tout de suite su.
Oui.
Et ça a été un trouble parce que j'ai voulu le faire à la place de Dieu.
Ah.
Et donc, j'ai pas attendu bien le temps. Ça m'a construit, ça a fait des dégâts, mais bon, c'est comme ça. Une fois que ça s'était fait...
Mais comment tu l'as reçu?
En fait, j'ai senti dans mon cœur, parce que j'ai tout de suite eu envie de dire aux autres très fort ce qui m'était arrivé. Donc j'ai senti cet appel de Dieu à dire aux gens que Dieu était vivant, à prêcher, à parler, à témoigner, à devenir pasteur aussi. Et ensuite, plus on s'approche de Dieu, plus c'est lui qui place les cartes dans le jeu. Quoi.
C'est ça.
Hein. T'as reçu des révélations.
J'ai, à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai tellement de problèmes parce que je le fais valoir moi, personne n'y croit trop, ou d'autres le croient mais ne reconnaissent pas. Il a fallu que Dieu pose des jalons en appelant des serviteurs de Dieu, en disant, oui, t'es bien appelé à me servir, des prophéties, des paroles, des choses encourageantes.
D'accord.
Voilà. Et après, c'est Dieu qui montre l'église dans laquelle on doit aller, laquelle on doit prendre en charge, etc.
Comment tu as su pour l'église que...
Pour Paris ?
L'église que tu devais aller, comment tu as su ?
Alors, l'église que je devais prendre en charge, en fait, j'étais pasteur de jeunesse dans mon ancienne église. Et là, à un moment, il s'est libéré une place et on m'a dit, est-ce que tu veux prendre cette église ? Et c'est ça.
C'est pas forcément une voix qui dit...
Oh, je recommence tout. Il y a une grande lumière blanche qui est venue du ciel.
C'est ça.
Non, mais ça a correspondu à un moment où on savait qu'il y aurait un départ.
Oui, une conviction.
Oui, on savait qu'on allait partir malgré tout.
Oui.
Donc, c'est arrivé... les circonstances étaient là et notre cœur était préparé. Bien que j'ai pleuré en partant.
Bah oui, forcément.
Mais on savait qu'il fallait partir. C'était le moment.
Ouais. Voilà. Et puis, des fois, il ne faut pas rester... Des fois, on s'accroche aussi à des choses. Dieu nous dit de partir, on s'accroche et on loupe. Je sais pas si on peut dire on loupe, non ?
On
loupe des choses qui vont grandir en nous et ce qu'on peut faire aussi dans notre appel parce qu'on veut rester dans là où on se sent bien.
La zone de confort, comme on dit.
Exactement. Quiconque peut être appelé à être pasteur ?
Non, ce que Dieu appelle, tout simplement.
Là, je vais répondre vraiment bibliquement. Pasteur, c'est un ministère don pour l'Église. Mm. Donc forcément, c'est Dieu qui distribue.
Oui.
C'est un appel que Dieu... Alors, beaucoup de gens voudront être pasteurs ou essaieront d'être pasteurs, mais en tous les cas, non, c'est Dieu qui appelle.
Mm.
C'est son choix. Mm. C'est lui qui donne cet appel pour servir l'Église.
Mm.
Et c'est pas quiconque.
Oui, oui.
Parce que alors, là, c'est pas exclusif, hein, mais c'est Dieu qui choisit. Voilà.
Oui, oui. Parce qu'il y en a qui veulent être pasteur parce qu'ils disent ah, ça va être le bon rôle, ça va être... Il y a plus l'envie de la chair que l'envie...
Tu les envoies.
Je vais leur dire, donner ton email.
Tu leur donnes mon email, on va discuter.
On va discuter. Un homme peut-il être homme de pasteur?
C'est-à-dire que la femme pasteur, quoi. Mm-hmm. On a des réserves, hein, joker. On peut mettre un joker.
Ah, parce que c'est vrai, il y en a qui, il y a des, on voit des femmes qui, c'est rare, mais qui sont pasteurs, et du coup, l'homme, on peut dire qu'il est homme de pasteur. C'est délicat.
Écoute, il y en a, hein, voilà. Personnellement, notre conviction à nous, elle n'est pas établie pour.
D'accord.
Voilà.
Ok. On a parlé tout à l'heure de Eric, comment tu as découvert ton appel. On a parlé un petit peu, Isabelle, tu l'as dû l'expliquer au
début.
Je l'ai
évoqué tout à l'heure.
Tout à fait, exactement. Mais est-ce que tu as obéi tout de suite?
Alors, j'ai tout de suite accepté l'appel d'Eric.
Oui.
Je l'ai reconnu. J'ai su que ça venait de Dieu.
Mm-hmm.
Maintenant, les concessions et les sacrifices, ça n'a pas été immédiat.
Oui.
Ça a été difficile pour moi.
Mm-hmm.
Mais je l'ai accepté malgré tout.
D'accord.
Voilà.
Mais surtout pour ta charge à toi.
Non, alors moi, je n'avais pas de charge. Moi, je n'ai pas reçu d'appel au début.
Oui, mais tu as quand même des... Pour t'occuper des ados, il y a...
Ah, c'est pas venu tout de suite.
Oui.
Justement, c'est ce que je te dis. C'est qu'au début, quand Eric a reçu l'appel, je disais, bah, Eric est appelé, mais moi, je ne vois pas. Je ne voyais pas du tout ce à quoi j'étais appelée. Je me trouvais inutile, en fait. Bon, j'ai tout de suite, comme Eric, témoigné de ma foi. On a porté du fruit.
Oui.
Je témoignais de ma foi. Ça, à ce niveau-là, c'était clair. J'évangélisais. Mais dans le ministère, servir dans l'église, je ne voyais pas. Et je disais toujours, d'ailleurs, à mes sœurs, mais je suis inutile. Moi, je ne vois pas je pourrais être efficace jusqu'à ce que Dieu me montre. En étant attentive et en cherchant ce que Dieu avait mis dans mon cœur.
Ouais, il faut chercher.
Faut demander au Seigneur. Seigneur, j'ai des talents en moi. Tu ne m'as pas laissé stérile. Il y a des choses que je dois... faire pour ton œuvre. Et Dieu m'a montré, m'a mis sur un chemin. Ça a été dans la relation d'aide. Et dernièrement, par rapport aux enfants, c'est vraiment Dieu qui m'a montré ça, parce qu'il y avait un vide dans cette église. On s'est retrouvés où il n'y avait plus de monitrice de l'école du dimanche.
D'accord.
Je n'avais jamais voulu faire ça. J'ai été même opposée, carrément, parce que je trouvais que cette notion d'école était un peu dérangeante. L'école du dimanche... Certains enfants, ils venaient à contre-cœur. Je voulais que ce soit un endroit où ils se fassent du bien, où ils soient contents de venir. Donc, je n'aimais pas toujours comment c'était fait. Et là, il y avait un vide et le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je le fasse.
Ouais.
Et j'ai obéi, tout simplement.
Oui. Dans le livre Proverbes, au chapitre 15, verset 22, il est écrit « Les plans échouent là où il n'y a pas d'entretien confidentiel, mais dans la multitude de conseillers, il y a réalisation. » Alors, comment vous êtes-vous préparés ensemble à vos appels? Notamment pasteur. Je sais que tu disais que c'était difficile, Isabelle, mais j'imagine que vous avez fait des choses ensemble pour justement et construire tout ça.
Ensemble, il y a plusieurs choix, plusieurs cursus. Par exemple, je vais te citer un exemple tout bête.
Oui.
Dans notre mouvement, les Assemblées de Dieu, quand je me suis converti, il y avait la possibilité pour ceux qui voulaient s'engager dans le service de Dieu de partir à l'école biblique.
D'accord.
Ça, c'était une forme de cursus.
Okay.
Moi, j'ai pas voulu le faire. Voilà, c'était mon choix. J'ai pas pris ce cursus-là. Mais néanmoins, je me suis préparé à ma façon à répondre à l'appel de Dieu. Donc, il y a plusieurs cursus, plusieurs choses à faire. On n'a pas tous le même chemin. Je voulais rester dans la vie, ce qu'on appelle dans notre jargon, séculier, quoi, pour être proche des gens, pour connaître les gens. Parce que je trouvais que peut-être un pasteur qui était dans son église, qui ne travaillait plus, il était un peu coupé du monde.
Vrai.
Je ne dis pas ça, s'il y a des pasteurs
bien
qui écoutent,
bien
ce n'est pas ce que je pense. Mais je veux dire que ça ne contribuait pas pour moi à être proche des gens. Et puis voilà, je n'avais pas envie de ça. On s'est préparé comme ça. Et puis au fur et à mesure, je dirais que c'est Dieu qui nous prépare.
D'accord.
Tu vois, parce que Isabelle vient de te citer l'exemple. ce qu'on appelle l'école du dimanche, encore dans notre jargon, c'est juste d'avoir les enfants puis de les éduquer un peu dans la foi. Et ben Isabelle, elle voulait pas. Et comment on s'est préparé? En fait, c'est Dieu qui a créé un vide qu'il fallait boucher, et on l'a fait.
D'accord.
Tu vois,
obéir.
C'est pour ça que j'insiste souvent, il n'y a pas de process préétabli.
Ouais.
C'est souvent la vie de l'esprit. Chacun a une façon particulière. Pour certains, l'école biblique, ce sera génial et formateur. Pour d'autres, pas. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on a cette vie de l'esprit.
Oui.
On est proche du Saint-Esprit.
C'est vrai.
Et la Bible dit que le vent souffle où il veut.
C'est vrai.
Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va.
C'est vrai.
Et ben, c'est un peu ça, nos vies avec Dieu.
Oui.
C'est pour ça qu'il ne faut pas trop établir.
Oui.
Il faut avoir des projets, des conseillers, comme tu viens de le dire dans ce verset, mais être quand même dispo à du changement.
Mais il faut avoir des bases.
Oui.
Mais c'est-à-dire que tu t'es quand même préparé.
Je me suis préparé
Il
après.
Il a fait ce qu'on appelle des formulaires. Donc c'est,
Ah oui. Alors après, plus tard dans notre mouvement pour devenir pasteur, c'est un cursus de 7 ans. Donc tu es en stage dans une église. Tu fais aussi des formulaires doctrinaux qui sont corrigés au niveau national par des pasteurs.
Okay.
Enfin, il y a quand même quelque chose à produire. Oui.
On ne vient pas comme ça du jour au lendemain, on monte son église et
Non, ça c'est des pasteurs indépendants. Il y en a qui le font.
D'accord.
Mais dans le mouvement auquel j'appartiens, ce n'est pas le cas.
D'accord.
Les pasteurs sont formés, ils sont reconnus, ils ne sont pas lâchés dans la nature comme ça. C'est vraiment quelque chose. Alors ça, on peut dire que c'est une préparation,
bien sûr, évidemment.
Et la prière.
Et la prière. Oui, c'est ça, les bases dont je parlais. Il y a quand même la lecture de la parole, la prière, la communion avec le Seigneur, s'aimer les uns les autres aussi. Pour des bases, quoi. C'est pas, comme tu dis, il n'y a pas de schéma, mais il y a quand même des bases d'entretien avec le Seigneur.
Puis il y a une conviction dans ton cœur, et tu sais qu'il faut que tu répondes à cette conviction d'une manière ou d'une autre.
Oui, tu bloques après, sinon.
Après, t'es pas bien.
Ouais. Il y a quelque chose qui
n'avance pas. C'est un feu qui brûle en toi, et voilà, il faut...
Avez-vous, et encore aujourd'hui, collaboré avec Dieu dans tous les aspects de l'Église? Le choix du lieu, qui est sur une péniche, les activités de l'Église, le choix des équipes, les prédications?
Alors, le choix du lieu, on a plutôt été conduit. Il s'est ouvert cet endroit, la péniche, qui est un endroit magnifique.
Ouais.
Le choix de l'équipe, oui, bien sûr, ça c'est le Saint-Esprit qui nous aide pour choisir des gens, justement, capables et des personnes d'esprit aussi, qui sont remplies de l'esprit, pour s'entourer d'une équipe qui aille dans la vision du pasteur et dans la vision de Dieu. Le reste...
Ouais, la communion, quoi.
Oui.
Vous demandez et vous recevez.
On est assez comme ça.
Ouais. L'apôtre Paul écrit dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28, c'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église, les miracles, la guérison de malades, l'aide, la direction de l'Église, le parler dans des langues inconnues. Appliquez-vous ces valeurs spirituelles dans votre ministère, car peu d'églises chrétiennes suivent ces normes aujourd'hui et en font plutôt des églises de bien-être. Vous voyez, des sortes de cellules psychologiques.
Vas-y, réponds, c'est ton domaine, monsieur.
Oui, non, alors simplement pour te dire, là, il y a dans les deux versets, dans le verset que tu as cité,
il y a deux choses.
Exact. Il y a les ministères dons de Christ pour l'Église, ce dont je t'ai parlé, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, etc.
Que tu tiens à cœur.
Ouais. Et après, il y a les dons spirituels,
tout
guérison,
fait.
Prophétie, etc. Nous, ça nous tient à cœur parce que notre vision, en tous les cas, c'est d'être au plus près des actes des apôtres. Donc vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, que l'on vit, que l'on pratique autant que faire se peut par la grâce de Dieu. On essaie d'exercer les dons spirituels. Donc ma réponse est oui, un grand oui.
Oui.
C'est vraiment notre vision, ça.
Comment faire pour ne pas déborder justement et devenir une église où on vient chercher son psychologue et vraiment rester dans cette optique-là? Parce que c'est facile de glisser.
Je crois qu'il y a deux éléments principaux. Il faut d'abord que la prédication du pasteur de cette église-là soit juste au niveau de la doctrine. Ça, c'est important. Et il faut un deuxième aspect, que les gens qui reçoivent cette prédication aussi soient engagés de façon sincère. Ça, c'est un équilibre mutuel. C'est-à-dire que quand tu as une bonne prédication dans la bonne doctrine, normalement, les gens qui la reçoivent sont bien enseignés et il n'y a pas de débordement. Par exemple, quelqu'un qui ne viendrait que pour chercher une cellule psychologique, à un moment donné, si la doctrine est juste, bien prêchée, que le message parle, la personne va comprendre que c'est pas toujours pour recevoir, mais qu'à un moment, il va falloir qu'elle donne.
C'est ça, oui.
Tu comprends? Mais ça fait partie de l'équilibre. Si le pasteur enseigne cela en disant, bon, vous êtes malade, on va d'abord vous soigner, mais une fois que vous allez être soigné, vous allez donner.
Tout à fait.
Parce que ça, c'est important. Si vous comptez rester 15 ans dans l'église à recevoir, il va y avoir un problème, parce que c'est pas ce que les Écritures enseignent.
C'est ça.
Voilà, c'est juste ça. Et il faut trouver cet équilibre avec l'amour, la paix, la fraternité. Le pasteur doit prendre du temps avec les gens, mais ça ne doit pas être du cocooning.
Oui, c'est ça.
Tu vois,
confort, etc.
Non-stop.
Oui, exact. De quelle façon, en étant dans un site et comme de nombreuses églises actuelles d'ailleurs, obéissez-vous au mandat de Jésus destiné à tous les hommes et femmes écrit dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20 ? Allez donc et faites des disciples des gens d'entre toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Alors le baptême, vous faites déjà.
Oui.
Mais la première partie.
Je réponds Isabelle, alors, parce que tu ne parles pas beaucoup.
Je parle d'évangélisation en fait. Comment...
Oui, voilà,
alors,
exactement.
On le fait de plusieurs façons au sein de l'Église en tous les cas. On a un dimanche, le premier dimanche de chaque mois est consacré à annoncer le message de l'Évangile. On demande aux gens de l'Église d'amener leurs voisins, leurs amis, leurs parents qui ne connaissent pas Dieu pour entendre l'Évangile. Donc
c'est
ça, c'est
ça.
Un des rôles. On le fait au travers des groupes de maisons qu'on est en train de créer. On le fait au travers du site Internet. On le fait en répondant à ton invitation d'aujourd'hui, parce que peut-être que dans les auditeurs, il y aura des gens qui seront intéressés par Christ. Voilà, on le fait de toutes ces façons-là.
En invitant aussi d'autres pasteurs.
En invitant d'autres pasteurs aussi. On a une liste d'invités, mais je ne vais pas faire ma pub. On a des invités qui vont venir dans les temps qui viennent, qui ont des ministères, dont d'évangélistes, par exemple, pour ça.
Ok, intéressant ça. Puis ça rappelle un peu votre histoire, que vous avez été invité, et du coup vous invitez
c'est
aussi.
C'est indispensable à l'évangélisation.
Exactement, parce qu'on oublie souvent notre histoire du coup, et on oublie comment on est venu à la foi, et puis on évolue, et on oublie les autres. Mais expliquez ce que c'est que les groupes de maison.
Les groupes de maison, en fait, j'ai à cœur depuis que je suis converti, de me dire que les groupes de maison, on a l'église traditionnelle, où on va le dimanche, mais quelquefois, il ne se passe rien la semaine. Donc, on a créé des groupes de maison dans lesquels chacun, suivant sa situation géographique et son temps disponible, va pouvoir vivre au plus près de ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres, c'est-à-dire la communion fraternelle, l'enseignement, l'évangélisation, les miracles, le soutien et toutes ces choses. De manière à ce que ce ne soit pas juste une religion, mais que ce soit une action au quotidien de vivre ce qui est écrit dans la parole de Dieu.
C'est clair, c'est clair. Alors notre première série, Les Dios, s'achève avec ce superbe témoignage qui j'espère va vous conduire à vous réconcilier avec Dieu, à laisser Jésus vous changer, lui, l'incarnation de l'amour de Dieu envers nous, et à vous transformer vos relations, votre famille, votre couple, et choisir de vivre dans la paix, dans la joie, l'amour, et choisir la vérité, d'être cette bonne nouvelle, cette espérance de Jésus-Christ. Demandez simplement pardon à Dieu pour vos erreurs, pardon à votre époux, votre épouse pour vos manquements, pardonnez votre famille comme Dieu vous a pardonné, et encore aujourd'hui par le sacrifice de Jésus à la croix, pardonnez votre passé aussi pour la paix de votre avenir. Un peu d'humilité ne vous coûtera rien, uniquement la grâce, la foi pour le bien de tous, afin d'aider, sauver tous ceux qui vous entourent, les mener à la lumière, loin des ténèbres. Et Dieu nous accueille les bras grands ouverts, et il en a de grands, il attend que le retour de ses enfants vers lui. La vie ne sera pas plus aisée, mais elle sera plus simple, car vous aurez le soutien absolu, à la différence de votre passé où vous étiez mal accompagné. Alors laissez tomber. Tout le reste ne vaut pas le coup. Laissez tomber, déchargez-vous, laissez tout dans les mains du Père. Alors, Eric et Isabelle, deux conseils. Un, pour aider les couples à entretenir une relation avec Dieu pour leur union dans les périodes de bonheur, comme dans les saisons de difficulté, car il y en a forcément.
Bah écoute, c'est compris, la réponse est comprise dans la question. Entretenez-vous dans la prière, ensemble, priez pour l'autre.
D'accord.
On ne fera rien sans Dieu.
Oui.
Donc, Dieu au centre de notre couple. Et on s'entretient dans la foi, on prie.
Amen. Et puis, un conseil pour aider les couples à découvrir leur appel, leur œuvre que Dieu a plantée en eux, surtout si en commun.
C'est encore la prière, hein, je vois.
C'est simple, hein?
C'est auprès de Dieu qu'on va aller chercher, c'est ce que j'ai fait moi, aller chercher ce que Dieu avait déposé dans mon cœur et le faire fructifier en se soumettant à Dieu.
Ouais. Comme quoi, c'est pas compliqué.
Non, le conseil, mettez Dieu au centre dans tout ce qu'il nous demande. Dans la parole, l'obéissance à la parole de Dieu, dans la prière, dans la fréquentation d'une communauté, et je dirais dans l'investissement. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
C'est ça,
et si on sème, on récolte.
Ouais.
Ça veut dire que si on investit pour Dieu, si on investit dans les choses de Dieu au niveau de mon couple, eh bien, je vais récolter les choses qui sont du royaume de Dieu.
Exactement.
Le conseil, il est vraiment là. Prends ta femme, prends ton mari par la main, prie, fréquente une communauté, obéis à la parole de Dieu, et ça marche.
C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on a tendance à trop se concentrer sur soi-même, sur ses propres intérêts. Et puis si des fois on met un peu de côté et on pense aux autres, on est bien plus gagnant. Éric, Isabelle, merci pour vos précieux conseils, le partage de votre expérience avec Jésus, avec Dieu, vos édifications qui vont aider les couples qui nous écoutent, les célibataires et les futurs couples, à vivre leur foi pleinement, à croire en ce que Dieu a prévu pour eux et avoir foi dans le plan de Dieu pour leur vie. Car Père, c'est ce qu'il fait. Il nous connaît, il connaît les désirs de notre cœur et ce que nous avons besoin pour nos œuvres. Qui sait, un conjoint, hein. Faites-lui pleinement confiance et concentrez-vous sur ce qu'il y a de plus important, la bonne nouvelle à partager. Alors, une prière pour les couples afin qu'ils puissent chercher l'aide de Dieu, afin que leur union soit bénie.
Notre Père, notre Dieu, au-delà de nos paroles, au-delà de ce que nous disons, de nos témoignages, nous croyons de tout notre cœur que tu as prévu des choses merveilleuses pour chacun, chacune des personnes qui nous écoutent. Tu as prévu de libérer ta parole et que ta parole ne reviendra pas à toi sans avoir accompli son effet. Alors je te prie, au nom de Jésus-Christ, que maintenant, le miracle de ta vie, le miracle de ta puissance, le miracle de ta parole s'accomplisse et se produise dans la vie de chacun et de chacune. Que maintenant, ces choses s'accomplissent, que des yeux puissent s'ouvrir, des yeux spirituels puissent maintenant s'ouvrir, que des cœurs puissent s'ouvrir maintenant, et que la parole de Dieu soit puissamment manifestée. Je prie que si des personnes sont en attente d'un époux, d'une épouse, d'un conjoint, de quelque chose dans ce sens, eh bien, qu'il se passe quelque chose de miraculeux, de divin, pour confirmer que tu es Dieu. Je te prie que si des personnes nous entendent et qu'elles ne te connaissent pas, qu'elles puissent faire la paix, lever les yeux vers le ciel, te connaître et te rencontrer. Je prie tout cela au nom de Jésus-Christ et je prie que tout ce que tu as fait de merveilleux dans la vie d'Isabelle et dans ma propre vie, dans la vie d'Angela, eh bien que tu puisses le faire maintenant dans la vie des auditeurs et des auditrices. Nous te le demandons, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Amen.
Amen. Quelle prière Alors, on fait toujours une petite explication à la prière. Hein.
Ok.
Peut-on prier pour tout?
Alors, ça veut dire quoi pour tout?
Pour tout, je sais pas.
Alors non, si tu pries pour les numéros du loto, c'est contraire à la parole de Dieu.
C'est clair.
Donc, tu peux pas prier pour tout. Tu peux prier pour tout ce qui est conforme à la parole de Dieu.
Et sa volonté.
Si tu pries pour avoir 4 femmes et 10 millions d'euros, ça va pas
ça
marcher.
Ça va pas marcher.
Si tu pries pour changer, tu peux.
C'est clair.
Si tu pries pour un mari, tu peux. Si tu pries pour une femme, tu peux. Donc tu peux prier pour tout ce qui est conforme à la parole
de
Dieu.
Volonté.
Ouais. Pour quelle chose prier pour son couple?
Alors tu peux prier pour ton épouse. C'est important. Tes enfants. Si tu n'es pas marié, tu peux prier pour trouver vite la solution qui te fait mal au cœur. Tu peux prier pour tout, pour ton couple.
Voilà. Ouais.
Que pour soi-même.
Pour soi-même.
Voir aussi où on en est. Et si on apporte quelque chose au sein du couple, on a des choses à changer en nous-mêmes.
C'est vrai.
On prie pour que l'autre soit béni et que pour nous, on soit éclairé sur... sur notre caractère, par exemple, ce qui peut créer des tensions, peut-être à l'origine des fois de la tension dans le couple,
c'est
nous-mêmes, sans regarder l'autre.
Exactement.
Donc, prier pour nous-mêmes aussi, c'est important.
C'est clair. Et dernière, est-ce que vous priez à deux?
Oui.
C'est une question stupide, je sais, mais...
Pas assez souvent à notre goût,
mais
on prie à deux,
Oui.
On prie personnellement, tous les jours, bien évidemment, mais c'est vrai qu'avec la vie active et tout, on a des fois du mal à se croiser le soir dans le salon.
Oui, ou... bien sûr. Vous priorisez à des moments, au moins une fois dans la journée, pour prier ensemble.
On essaye.
Ouais.
Bon, mais tu vois, là, par exemple,
sur
cette semaine...
Sur des points forts, par exemple, pour l'Église, on va s'associer.
Oui, oui.
Pour notre fils.
Oui.
Pour des sujets importants, le jour pour les malades, on s'est mis en prière ensemble, pour les malades de l'Église.
Oui, oui. On ne prie pas que pour soi, quoi.
Non. Surtout quand on s'associe,
Oui, mais non.
C'est vraiment pour des choses, voilà, ça va être l'église, des choses importantes comme les malades, comme les couples
Oui,
justement
tout à fait.
qui sont en division.
Pour le réveil,
Absolument, ça fait
pour
partie
des
aussi, oui.
réveils.
Que dans l'église, il y ait des nouvelles âmes,
Ouais.
et voilà, ça
Ouais.
c'est
Et tu
sont les
verras
prières.
que quand les disciples demandent au Seigneur de les enseigner à prier,
Oui.
Jésus leur donne la prière du Notre Père. Et tu vois dans le Notre Père, qui est une forme de prière,
Oui.
que les prières pour soi, elles arrivent à la fin.
C'est vrai,
Donne-nous
hein.
aujourd'hui notre pain de ce jour, ça vient bien après
Oui.
Notre Père qui est aux cieux,
C'est
etc.,
ça,
etc.
oui.
Donc ce n'est pas le plus important de prier pour nous. Il faut le faire, mais quand même, plus on va se consacrer aux autres,
Oui.
plus on va
Oui, mais quand
penser.
j'ai prié pour nous, c'est prier pour un changement en
Ah
nous.
oui.
Pas pour ce notre pain, c'est encore donne-nous, donne-nous, donne-nous. Mais quand, c'est ça, en fait.
Ouais,
Hein, on demande
ouais.
toujours à Dieu qui nous donne, qui nous.
Ouais.
Mais quand j'ai prié pour nous, c'est prier pour se sanctifier davantage,
Pour
pour avoir
changer.
plus la crainte de Dieu, pour être
Oui.
plus dans la sanctification. Voilà, c'est en cela qu'on prie pour
D'accord.
nous.
Merci encore Eric et Isabelle pour cette bénédiction
De
que vous nous
rien.
avez apportée dans cette émission. Dernière chose avant de nous quitter, quels sont les rendez-vous auxquels les auditeurs peuvent participer à l'église Espoir et Vie? Déjà, il y a le culte dimanche.
Alors, il y a le culte le dimanche matin, à partir de 9h30, il y a une agape,
Oui,
un
le
petit
matin, puis un
déjeuner,
accueil café
un
croissant,
accueil café
voilà.
croissant à 9h30,
Il y a
le
des gâteaux
culte,
maison.
oui.
Des gâteaux que je fais.
Le culte commence à
Ah,
10h, voilà. Après, il va y avoir les réunions de maison,
c'est toi qui les as
qui vont commencer courant mars.
fait.
Pour avoir les principaux rendez-vous,
Oui. La réunion de prière aussi.
www.espoirevie.fr,
La
oui.
réunion de prière le mardi.
Et le mardi soir, nous avons aussi une réunion de prière à 19h30 à l'église du Tabernacle dans le 18e arrondissement, au
D'accord.
163 rue Béliard.
D'accord, ok.
Voilà.
C'est quoi des nuits de prière?
Réunion de prière, c'est
Ah, réunion de
une
prière.
réunion de prière le soir de 19h30 à 21h.
C'est qu'on passe notre soirée à prier.
Oui, on a un petit enseignement, une prière, on
Oui.
apporte les sujets
D'accord.
qui sont lourds pour certains
Bien
ou pour
sûr.
les besoins et on prie. Voilà.
D'accord. Donc je rappelle espoir et vie.fr et puis aussi la page Facebook pour toute
Yes,
l'actualité, au cas où il y a des crues, des choses comme ça.
ouais. C'est ça.
Nous vous invitons à poser des questions à nos invités, Eric Pasteur à l'église Espoir et Vie, et donc Isabelle, son épouse, responsable à l'éveil de la foi des adolescents, et qui conseille les couples avec son époux, le pasteur Eric. Envoyez vos questions à oeuvredefoi@masterminderentertainment.com et ils auront plaisir à vous répondre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas?
Absolument.
Faites-vous plaisir, édifiez-vous en réécoutant les émissions de la série Les Duos d'Œuvre de Foi sur Même Radio et restez connectés pour découvrir notre prochaine série d'émissions inspirantes disponibles sur iTunes, Apple Podcasts, TuneIn, Acast et Stitcher. Merci de nous écouter dans Œuvre de Foi. Soyez grandement inspirés et bénis et à bientôt
Amen.
sur MM Radio.
Amen. MM Radio. MM Radio.